Dans le tempo, épisode 17. On est parti. Bienvenue, vous êtes de retour dans DLT, on est de retour, et chose absolument incroyable, on innove, je suis avec mon gars Michel, pour de vrai.
Regarde, on peut se toucher.
On peut se check. Voilà, yes, voilà. C'est ça, on est là. Donc ça fait plaisir, écoutez, nouvelle saison de DLT, et nouveau setup. En fait, on est un peu dans une période de transition, on va chercher un lieu où on peut enregistrer, mais voilà, on commence, vous voyez déjà, à se retrouver pour enregistrer l'émission. Mm-hmm. Ce sera le cas aussi pour les invités dans le futur, c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver, on n'a aucun doute d'ailleurs. Si vous avez des plans pour des lieux d'enregistrement, n'hésitez pas, voilà. Paris Intramuros, petit décor avec matériel déjà.
Nos budgets sont illimités,
non c'est pas vrai ça. Michel, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une thématique particulièrement intéressante, j'ai envie de dire comme à chaque fois, puisque c'est un podcast légendaire, on peut le dire.
Oui.
Et aujourd'hui, on va s'interroger sur est-ce qu'on manque de culture musicale? Est-ce que la population en France a assez de connaissances autour de la musique? Et surtout, si on se questionne là-dessus, c'est parce que c'est un peu le but de cette émission, c'est d'essayer de transmettre des savoirs autour de la musique, etc. Est-ce qu'on part du principe qu'il y a des lacunes? Est-ce que non? Est-ce que c'est si important de transmettre du savoir autour de la musique? Et pour essayer de répondre à cette question, on a un invité de choix, puisque ça fait pas loin de 15 ans que tu fais ça maintenant, PV, je pense. PV Nova est parmi nous.
Coucou. Bonsoir. On peut se
check comme ça. Yes,
voilà. Let's go.
Let's go. Légendaire. Bientôt 15 ans. Après, faut pas non plus que tu te trompes tout à fait dans les chiffres, parce que 15 ans, je pense que Dailymotion n'existait pas. Mais 14.
Sur tes fiches.
14, ouais, c'est ça.
14.
Quoi, 2006-2007 à peu près
J'ai commencé en 2007, ouais. Et Dailymotion existait en 2006. Donc ouais, il y a 15 ans, c'est vrai, j'avoue. Ouais, à faire des vidéos, mais pas que.
Mais oh, t'inquiète pas, on va prendre le temps d'en parler. Mais justement, peut-être Michel, tu peux, s'il y a des personnes, les rares personnes qui ne connaissent pas encore PV Nova, un petit topo, c'est qui PV? Qu'est-ce qu'il a fait?
PV dit le boss Nova, première vidéo
L'ancien. En
2006-2007 sur Dailymotion, donc tu étais littéralement un pionnier de l'exercice.
C'est vrai, un peu
à la musique, ce que Cyprien est au podcast finalement.
Oui,
littéralement. Donc t'as fait des millions, des milliards de vues sur ta chaîne YouTube où tu vulgarises la musique. T'as participé à de nombreuses émissions avec Wax, il y a le comité des reprises, des formats pour France TV et tout Tiki Anti. T'as sorti aussi beaucoup de projets musicaux, des albums basés sur des défis, et dont tu documentes la composition en vidéo, notamment sur YouTube. T'as toujours eu des groupes de musique en parallèle, t'as ton groupe de théâtre Les Franglaises, et t'as un spectacle avec eux qui tourne depuis plus de 10 ans et qui a reçu
un Molière,
monsieur.
C'est bientôt la millième.
Oh, c'est beau.
Ouais. Putain, c'est légendaire.
C'est légendaire.
Et t'as même récemment sorti une BD avec des musiques que tu as composées avec le frérot Flig.
C'est un album qui est accompagné d'un EP dans lequel il y a 4 titres, 2 qui sont d'inspiration pop, rock, que j'ai fait avec mon pote de l'internet orchestral Louis Ledoux, un guitariste et chanteuse Marciu des Franglaises, et 2 autres titres qui sont plutôt dans une lignée pop kawaii, que j'ai fait avec un DJ qui s'appelle Plig, qui est ultra talentueux, et une chanteuse qui s'appelle Clara Doxal, qu'on ne présente pas si vous connaissez mon travail.
C'est bien sûr la légende Clara. Oui.
Bon, beau CV, Michel, on peut le dire, je pense, quand même.
Magnifique CV.
Donc, et puis surtout...
Un CV que je lui envie depuis...
tu aimerais être PV Nova dans la vraie vie?
Je ne rêve que de ça.
Ah bah, on peut échanger, hein. Ouais, une semaine, tu vois, genre comme...
Ouais,
je ne veux pas plus, t'as remarqué, il m'a pas de ta vie depuis une semaine.
Ouais, je lui ai expliqué avant que je ne dormais pas, il s'est dit, waouh, bizarre. Ouais,
ouais. Il va me laisser pile au moment où il faut vraiment y avoir une semaine de taf, de quoi. Dis, je te laisse cette semaine. Moi, je pense que tu es en vacances au Baléares.
Ma vie. Ouais.
en tout cas, on voit quand même un fil conducteur parmi tes différentes activités. Et c'est la raison pour laquelle on voulait t'inviter dans le podcast et discuter avec toi de cette idée de transmission, d'éducation, de pédagogie autour de la musique.
Oui, si tu veux, en résumé, il faut connaître ses forces. Moi, je ne suis pas le meilleur musicien du monde.
Ouais.
Par contre...
Je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça, PV.
Non, mais il y a 2 types que je connais qui sont au-dessus de moi, mais...
Ouais, ouais, après, c'est les Daft Punk.
Oui, voilà. Ouais. Du coup, comme ils m'ont fait de la place. non, moi, mon truc, c'est que je suis un curieux et j'aime bien parler des choses qui me passionnent. Et en l'occurrence, la musique et d'autres domaines me passionnent. Et donc, je fais ça par envie de... Bah, juste, en fait, quand un truc... je me dis, tiens, il n'y a pas assez de gens qui le savent, ça, il faut que j'en parle, quoi. Et en fait, ça vient d'une passion que j'ai, moi, c'est d'écouter des gens passionnés. C'est-à-dire que je passe ma vie à regarder sur YouTube ou Twitch des gens qui sont spécialisés dans un truc que je ne sais pas faire et qui vont en parler, même si c'est, tu vois, des domaines a priori desquels je ne m'intéresse pas, comme le jardinage. Si y a un mec passionné qui me parle de jardinage, je peux l'écouter des heures durant, quoi.
J'ai un frérot qui m'a montré une chaîne YouTube spécialisée dans le crochetage de toutes choses. Donc c'est des serrures, des cadenas.
Ah oui, mais je m'attendais peut-être, tu sais, avec du tissu, etc.
Ah ouais, non, c'est du crochet.
Ah oui, pardon. Le crochetage, non pas le crochet, mais intéressant.
Ouais. Et je ne me suis jamais intéressé plus que ça, mais maintenant, à tout moment, je crochète.
Est-ce que tu as une vocation de voleur qui est née en toi?
J'avais déjà des prédispositions, et là, on est quand même... on rentre dans un terrain dangereux, je pense. Et ce nouveau set de compétences.
Tu nous tiens au courant pour le prochain épisode, tu nous dis que tes talents de crochetage, ils sont améliorés.
Peut-être qu'on va trouver des locaux sans trop forcer. Oh,
mais c'est une excellente idée. Je te propose quoi.
Je serais chaud.
Bon, les gars, ce que je vous propose, c'est de passer vraiment à la première partie de ce podcast et qui est justement un questionnement déjà d'ordre un peu plus général pour pourquoi ça nous paraît important, nous qui essayons de faire ça, c'est notre métier à tous les trois en partie, pas seulement, mais. De partager des savoirs autour de la musique. Pourquoi cette nécessité? Et PV, tu as commencé déjà à nous dire un peu pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos. Enfin, ou du moins, quel est un peu... Voilà, tu dis que tu as envie, tu es un passionné, etc. Mais est-ce que tu te rappelles réellement du moment où tu t'es dit « j'ai envie de le faire » Et surtout, est-ce que c'est un lien avec... Je t'ai entendu dire en interview que tu essayes d'être le professeur que tu aurais aimé avoir. Est-ce qu'il y avait une vocation presque d'être prof, un truc comme ça.
Après, c'est une interview où j'étais un peu rebs. Mais non, c'est la vérité ultime. Après, je pourrais t'en parler. Déjà, ta première question, tu as ouvert un tiroir que je peux exploiter pendant 45 minutes, donc je vais essayer de synthétiser.
On te coupe si besoin.
La raison pour laquelle je partage mes connaissances dans ce domaine où je fais des expérimentations en live, comme je fais sur Twitch, là, en ce moment, je reprends la lambada à la façon de Ennio Morricone, le compositeur de musique western spaghetti de Sergio Leone. La raison pour laquelle je fais ça, c'est juste que à la base, la musique, comme d'ailleurs ça aurait pu être le roman ou d'autres domaines artistiques qui me parlent, moi, ça me change ma vie, en fait, c'est juste ça. C'est juste que des fois, quand j'écoute des morceaux de classique ou de pop très débiles, tu vois, c'est pas une question d'intelligence du créateur et de recherche, ça me donne des émotions que seul l'art peut me procurer, en fait, c'est juste ça. C'est juste que l'art est... c'est des préoccupations de gens qui ont toujours à bouffer dans leur assiette et ont un toit pour dormir. Je veux dire, de base, on a des besoins essentiels à satisfaire. Une fois que ces besoins sont satisfaits, il y a un truc que seul l'art peut apporter dans du voyage, dans une expérience de choses que tu ne pourras pas vivre par ailleurs. Et moi, j'ai des souvenirs de me plonger aussi dans des romans et de juste vivre des trucs tellement fous que je me dis, en fait, juste une chose... Il faut qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ça. Donc, c'est tout bête. C'est juste à travers une expérience personnelle de ce truc-là. Et il y a certains morceaux, certains genres musicaux qui nécessitent, pour qu'on les apprécie pleinement, d'être guidés. Alors, je dis ça, en fait, c'est un peu pour tout. C'est pas que le jazz et la musique classique. Hein. Mais même pour le rock, tu vois, quelqu'un qui connaît pas le rock, pour lui, tous les groupes de rock se ressemblent. Alors que si on commence à t'expliquer un petit peu pourquoi il y a une différence, c'est quoi la différence de son ou d'expérience, de culture entre ces deux groupes et d'où vient, quelle est leur racine commune, comment est-ce qu'on en est arrivé là, tu vois? Comment est-ce qu'on en est arrivé à Skrillex, par exemple, pour prendre un autre truc? T'as un chemin d'artistes qui se suivent et qui t'amènent depuis le jazz et les prémices de la musique enregistrée à Skrillex. Et c'est fascinant de voir comment chaque génération va s'approprier les trucs des anciens et rajouter sa propre patte. Donc ça... Moi, j'ai l'impression de comprendre, peut-être un peu mieux que certains, ce cheminement. Donc, je me dis, il faut que je l'explique, comme ça, les gens vont encore plus kiffer et encore plus être touchés par l'art.
Est-ce que tu as toujours eu l'intention de t'adresser avant tout à des néophytes, des gens vraiment peu au courant, amateurs peut-être de musique et des mélomanes qui écoutent, mais pas forcément qui connaissent les coulisses? Ou est-ce que aussi, parfois, tu t'adresses aux musiciens, essayer d'aller plus loin tu t'es toujours dit, voilà, quelle était un peu ta posture, entre guillemets?
J'ai une posture, je sais que ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais c'est une réalité, j'essaie de parler à tous. C'est-à-dire, en gros, non pas faire du nivellement par le bas et donc utiliser un vocabulaire très simple. Lorsqu'on aborde des choses techniques comme la musique, c'est bien d'avoir un vocabulaire technique. Donc, je l'amène, ce vocabulaire, en essayant à chaque fois de l'expliquer. D'expliquer ce que c'est qu'un riff ou un ostinato et pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc, parler à tous, mais pas prendre les gens pour des ignares. Et donc, en fait, moi, si tu veux, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent rien à la musique, qui ont adoré les expériences musicales, et je sais qu'il y a des professionnels qui faisaient des genres que j'ai décortiqués dans les expériences musicales, qui me disaient « Ah, bâtard, certes, tu nous as vraiment cernés, et t'as fait la bonne parodie du truc. » Donc, je pense que c'est... Ouais, parler à tous. Bon, après, moi, je fais de la pop. Comme en tant que style musical, mon style que je joue quoi, sur scène, c'est de la pop. Et la pop, par définition, c'est le Graal en art, c'est l'œuvre d'art universelle. C'est-à-dire que pour apprécier une chanson des Beatles, t'as pas besoin d'avoir fait musicologie. Pour apprécier du Gershwin, c'est plus compliqué. Mmh. Et donc, moi, j'estime, enfin, c'est pas j'estime, je me donne pour mission de parler à un maximum de personnes, qu'ils aient ou non le bagage. Voilà. Et après, moi, pour revenir sur ta question du déclic, je le dis avant d'oublier, je me souviens très bien du déclic, c'était en 2008, vraiment 6 mois après le lancement de ma chaîne. Je compose un morceau tout seul au piano et j'imagine dans ma tête la basse, la batterie à ce moment-là, différentes couches de piano, et je me dis « Ah, ce serait rigolo ». En fait, mon cheminement de compositeur me fait marrer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je fais ça après à telle partie de piano et puis après telle basse ? Et je me suis dit « Bah, il faut que je fasse une petite vidéo pour montrer aux gens comment est-ce qu'on décortique un morceau ». Parce que c'est ça aussi dans la musique, c'est-à-dire que toi, t'as un aplat avec tout, t'as un fichier stéréo masterisé, mais t'as plein d'instruments, et il y a peu de gens qui, comme moi, font la démarche systématique de tout décortiquer. Et donc, cette vidéo, je la prépare dans ma tête, et puis je la fais, et je l'appelle, en la postant sur Dailymotion à l'époque, je l'appelle expérience numéro 1, alors que je n'avais pas prévu d'en faire une série. Et donc, suite à cette vidéo qui s'appelle expérience numéro 1, des gens m'ont dit à quand la 2, et du coup, j'ai pérenniser le concept et je l'ai un petit peu explicité. Et c'était vraiment ça, c'était de la décomposition musicale.
Et c'était sur quel style, le numéro 1 ? Parce que je pense que...
C'est pas adapter un style, c'était une compo, en fait.
Ok, c'était une compo, parce que j'ai pas été revérifié, mais il me semblait que sur ta chaîne YouTube, ça commençait pas avec le 1, justement.
Oui, c'est possible, parce qu'en fait, j'avais les deux. J'ai eu rapidement une chaîne... En fait, j'ai dû les mettre à posteriori, mais j'ai eu rapidement Dailymotion et YouTube. Et en fait, sur YouTube, je mettais que des contenus qui étaient anglophones. Parce qu'à l'époque, les Français, ils étaient sur Daily et le reste du monde sur YouTube. Donc, je mettais des covers sur YouTube. Et comme ça, je parle en français tout du long.
Ouais.
Je me suis dit, je la mets pas. Et puis après, j'ai migré, donc j'ai tout remis.
Tu as migré.
Moi, je suis quand même impressionné. C'est 2007-2008, c'est tôt. T'avais l'impression, je pense pas que ce soit le cas, mais je pose quand même la question, t'avais senti qu'il y avait quelque chose à faire, une plateforme qui allait se démocratiser
hein? Ah non, c'était un entre-soi, mais ça m'allait. Hein. Mais je faisais des vidéos qui avaient 5 ou 10 000 vues.
Ce qui était énorme pour l'époque.
C'était déjà beaucoup pour l'époque, et je faisais ça, voilà. C'était pas du tout opportuniste, et puis c'était impensable de penser que tu pouvais gagner de l'argent avec les vidéos sur Internet à l'époque. Impensable. Ouais, vraiment, j'ai halluciné quand on a commencé à avoir des contrats. J'étais là, wow, parce que c'était un truc, il n'y avait que des nerds qui regardaient ça. Quoi.
Et au-delà de la professionnalisation, de pouvoir en vivre, etc., tu t'étais dit quand même que forcément, il y allait y avoir un public de plus en plus important. Franchement, c'était en dehors de ces considérations.
Non, je m'en fous. Mais je m'en fous toujours maintenant.
C'est vrai.
Ah ouais, vraiment,
je cherche pas à attendre le plus possible de gens.
En fait, ça fait des années que je considère que YouTube, c'est pas mon métier. Et c'est salvateur. Malgré ça, j'ai eu des moments difficiles. J'ai fait un burn-out, on pourra aussi en parler. Je sais pas si c'est la question ici, mais j'ai fait un burn-out il y a 2 ans. Et parce que j'avais oublié ce premier truc de base, qui était la raison pour laquelle je suis allé sur Internet, c'était se marrer, se faire plaisir, et puis faire marrer les quelques personnes qui vont tomber dessus et à qui ça parle. Et le reste, on s'en fout. Mais je suis pas dans des considérations de résultats et d'objectifs. Et en fait, je me rends compte que les projets qui fonctionnent le mieux sont les projets les plus personnels. Comme ma reprise de Daft Punk à travers les âges, ou mon rap philo avec Cyrus. Ça me faisait juste marrer de le faire, et c'est un peu absurde. Mais c'est un peu pareil avec Chrono. Les trucs qu'on connaît le plus de Chrono Musique, c'est les projets les plus perso.
C'est réel. C'est réel ce que tu dis. Ouais, et puis c'est les moins calculés, quoi.
Oui, c'est ça, c'est des vraies impulsions, quoi.
Oui, c'est ça, c'est les trucs les plus spontanés, les plus perso, c'est clairement
après,
ça.
Après, tu peux aussi, maintenant, tu vois, des créateurs comme Chrono Musique et moi, on est tellement spectateurs qu'on voit les trucs qui marchent. On pourrait faire des choses calibrées. Est-ce que c'est notre intérêt ? Bah, aujourd'hui, non.
Ouais, donc, puis Je sais pas, moi je commence à aussi à croire à une sorte de magie. Je pense que ou juste à croire que les gens ils captent quand c'est sincère ou que c'est pas sincère et qu'ils cherchent la sincérité avant tout. Et que c'est du coup, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont calibrés et on se dit tiens pourquoi ça marche pas. Et je pense que c'est parce que c'est trop calibré, tu vois.
De toute façon, autour de la sincérité, c'est une certitude. Et d'ailleurs, on voit bien que le modèle de Twitch aujourd'hui et du streaming, c'est un modèle qui met presque plus en avant la personnalité que le programme en lui-même ou que le contenu en lui-même. C'est, on veut voir quelqu'un qu'on sent réel, proche de nous, etc. Et c'est avant tout à ça, c'est à ça auquel on est attaché. Donc je pense effectivement il y a ça, mais je pense que c'est... Il faut pas nier non plus le fait, non pas que ce soit calculé, mais que il y a aussi une rencontre dans un air du, dans l'air du temps entre guillemets, où, où toi une envie personnelle, elle est liée aussi à ce qui se fait en ce moment, etc. Les choses qui t'influencent et tu la digères à ta manière et ensuite quand elle sort, elle correspond aussi peut-être quand même à un moment et une attente.
Ouais, c'est ça. Donc il y a de la, c'est une forme de chance entre guillemets. Enfin moi je le ressens comme ça, tu vois.
Mais il y a quand même des mécanismes un peu à l'heure, tu vois que je veux dire quoi.
Ouais. Mais c'est à quel point tu vas être en adéquation avec ton époque, quoi, tu vois.
Oui, c'est
ça. Pour ça, je pense que c'est s'amuser, c'est le meilleur des trucs, parce que ça, je sais pas comment dire, ça te permet de te sentir à l'aise avec tout ce qui se passe autour de toi et de l'intégrer d'une manière plus naturelle et de le ressortir d'une manière plus naturelle, tu vois.
C'est la raison pour laquelle je considère tout ça, toutes ces vidéos, comme un loisir.
Ouais.
Vraiment, mon métier, c'est quand je suis appelé pour être compositeur sur des trucs, quand je fais mes albums, là, c'est mon taf, vraiment.
Ouais.
Et si tu veux, j'ai une exigence de résultat parce que sinon, j'ai plus de revenus et puis voilà, il faudrait que je change de métier un jour. Mais je considère que c'est... Alors, c'est un loisir qui me rapporte quand même un petit peu d'argent, mais ça reste un loisir, quoi.
Ouais, on est dans la même mentale vis-à-vis de ça. Nous avons la même mentalité. La différence, je dirais, c'est que moi, j'ai ce truc de... J'ai l'impression que moi, j'ai échoué à parler au grand public. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que, c'est ce que je te disais l'autre fois, quand je fais le bilan de mon expérience sur YouTube, moi, je suis moyen content de à qui j'ai réussi à parler. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir plus parlé à des amateurs de musique. C'est des gens qui s'intéressaient déjà à la musique et que j'ai pas réussi à faire ce truc.
C'est très intéressant.
Des gens qui s'y intéressaient pas.
Justement, tu voulais poser la question à PV un peu du bilan qu'il tire. Est-ce qu'il a atteint les objectifs, c'est un bien grand mot, mais par rapport à tes attentes initiales, en tout cas, ce que tu imaginais, quel impact tu as eu, etc. Est-ce que tu en es content? Mais c'est intéressant parce que je commence, moi, si tu le veux bien, PV, puis après, tu nous diras ce que tu en penses. Mais Michel, ça fait combien de temps que tu fais du contenu un peu pédago, entre guillemets, sur...
J'ai arrêté, mais j'en ai fait pendant 4 ans.
Pendant 4 ans.
J'ai commencé à 5 ans, quoi. Je dirais que j'ai tout lâché avec le confinement, quoi. Franchement, le premier confinement, j'ai dit, ah, c'est bon. Et en fait, si j'ai envie, je fais. Hein. Tu vois, genre, si j'ai envie, je fais... Pendant le confinement, j'ai fait... des vidéos qui n'étaient pas à proprement parler de la vulga, mais des trucs un peu plus premier degré, culturels, etc. Et puis, il y a des moments où je fais de la grosse merde. Hein. Et je fais ce qui me chauffe. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai dit, bon, vas-y, on va
arrêter. C'est le plaisir qui compte maintenant avant tout.
Ouais, voilà. Mais il y avait déjà un peu ça, mais en fait, il y avait quand même cet objectif d'aller essayer de toucher les gens qui n'en ont rien à foutre de la musique et de les faire s'intéresser à des trucs. Quoi.
Et ça, tu as l'impression d'avoir échoué?
J'ai l'impression d'avoir globalement échoué, tu vois. Évidemment que je vais avoir des témoignages et c'est toujours très touchant, tu vois, tu vas avoir un témoignage par mois d'un type qui va dire, ah putain, j'ai acheté un ukulélé parce que t'as fait ça et tout, j'en avais rien à foutre de la musique et puis j'ai commencé. Mais à l'échelle des vues et tout ça, tu vois, c'est très 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 peu.
Il faudra voir ce que PV nous en dit, mais pour faire le parallèle, parce que je trouve ça intéressant, c'est... Moi, ça fait à peu près un an et demi que je fais des vidéos. Alors, j'ai fait d'autres choses avant, mais vraiment des vidéos un peu de pédagogie autour de la musique. Et j'ai encore cet espoir d'apporter...
Oh,
alors, c'est vrai que je m'adresse beaucoup à des gens qui sont déjà très passionnés par la musique, voire musiciens, mais de capter des gens, d'intéresser, et de... C'est pas une vidéo qui va changer le monde, évidemment, mais que tu sais, à force, parfois, il y aura le petit truc, et puis après, ils vont en parler avec un pote, tu vois, le soir, ou autour d'un coup, ils vont dire, ah putain, j'ai maté ce truc, il parlait de ça, tu connais, tu vois, ou juste, il va prendre peut-être un instrument, ou je sais pas. Tu sais, ces petits trucs, c'est pas grand chose. Mais j'ai cet espoir-là. Et tu penses vraiment que t'as échoué ça, par exemple?
En fait, je pense surtout que mon approche était pas bonne dans la mesure où ce que je me dis maintenant, c'est que si tu dois inspirer des gens, il y a genre en vrai, t'es plus souvent inspiré par des gens qui font des trucs que par des gens qui te parlent de trucs. En tout cas, moi, c'est mon cas, tu vois.
Ouais, c'est
donc, je me suis dit, bah vas-y, nique la pédagogie, je vais faire des trucs. Et s'il y a des gens que ça doit toucher, ça les touchera, tu vois.
Et puis, il faut dire que toi aussi, t'avais une, pas que, hein, mais t'avais souvent une approche un peu technique autour de la musique.
Ouais.
Et c'est peut-être c'est ça aussi, qui, parce que le ouais. culturel de manière générale est peut-être plus à même, tu sais, de petit à petit. Mais on, depuis tout à l'heure, on parle entre nous, PV. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, PV?
Et moi, je rejoins ce que vous dites sur un objectif que j'ai et qui est une sorte de fil rouge, qui est de faire en sorte que des gens qui ne, n'osent pas faire de la musique se disent « c'est pas si difficile que ça ». Ça, c'est un objectif en, en fil rouge parce que à travers mes vidéos, c'est pas l'objectif premier à travers l'expérience musicale ou le comité. En fait, si ce que je fais a l'air facile, ça va peut-être
Désacraliser.
Désacraliser le truc et faire en sorte que les gens qui n'osent pas se lancer, se lancent. Après, si tu veux, moi j'ai un discours sur ma carrière de vidéaste pur. J'ai un discours qui peut être surprenant, mais que je pense réellement, c'est pas juste de la position. Je pense que mes plus gros succès sont derrière moi et je pense que je suis un peu has-been et que c'est pas plus mal parce que, en fait, ça me fait du bien artistiquement, créativement. En fait, moi, mais vraiment, mes rêves de gosse, je les ai atteints en faisant l'Olympia avec mes potes des Franglaises. On l'a fait plusieurs fois, tu vois. Faire l'Olympia avec tes potes, ça, c'est un truc, tu vois. Une fois que c'est fait, t'es là, ça fout un peu le vertige parce que tu dis, il y a quoi après, quoi.
Ouais.
Il y a quoi vraiment après. C'est difficile d'aller au-delà. Pareil avec le comité, on termine le comité d'art prise que je faisais avec Wax, on le termine en invitant Sting. Et quand à 30 ans, t'as joué avec Sting, pas tu te dis, merde, il y a qui au-dessus, tu vois. Il y a Paul McCartney, peut-être. Bon. Compliqué, mais sinon, en fait, moi, j'ai atteint des paliers qui font que déjà, j'ai kiffé. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce que je vis. Et c'est aussi ça, un peu, qui m'a donné un vertige. Et je pense qu'a amené deux ans après à cette période de plus dure que j'ai eue personnellement. Parce que je me disais, merde, en fait, j'ai plus de route. Mais je ne sais pas où mène ma route. Et en fait, ça m'a pris du temps à de comprendre que j'étais pas sur une route qui était linéaire, mais que j'étais sur un terrain vague, et qu'en fait, maintenant, le but du jeu, c'était plus d'avoir des objectifs, mais de trouver des petits spots rigolos sur le terrain vague, où on peut faire du toboggan, où on peut construire des trucs avec de... Donc voilà, j'ai plus une... J'ai moins une carrière linéaire, et j'ai plus des envies qui sont horizontales, et maintenant, je m'amuse avec tout ça. Et le fil rouge, c'est de faire en sorte que des gens qui ne s'intéressaient pas à des groupes dont je pense que ça... Enfin, qui je pense mérite qu'on s'intéresse à eux, découvrent ça, et des gens qui disent que la musique n'est pas faite pour eux s'y mettent. C'est ça, ça c'est mon objectif global.
Est-ce que tu penses justement, parce que c'est une question que qui me paraissait intéressante, c'est une nécessité pour toi, ou du moins un truc extrêmement important que quelqu'un en France, peu importe, quelqu'un au sein de la population, ait des bases en musique? Ça te paraît être un savoir essentiel?
On a tous des bases en musique, je le pense sincèrement. C'est-à-dire... Pour moi, je dissocie la pratique musicale de la théorie de la même façon que je distingue l'art oral de l'art écrit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut apprendre à parler sans apprendre à lire et écrire. C'est évidemment beaucoup mieux quand tu fais les deux, parce que tu comprends des choses, ça te débloque, etc. Mais moi, j'en ai parlé avec Chrono, j'en ai parlé avec Pandrez, de la façon d'apprendre la musique qu'on a en France, et qui, vous voyez très bien de quoi je parle, c'est donc la façon académique.
La flûte, putain.
Qui est une façon parmi, en fait, tant d'autres, et qui, je pense, est assez vertueux, mais qui ne devrait pas être la voie unique de proposition. En fait, pour moi, il pourrait y avoir des cours de musique à l'école qui se rapprocheraient de l'impro en théâtre. En fait, tu réunis juste des gens dans une même pièce, et tu les fais jouer, sans chercher. Et en fait, c'est ça aussi, bah, y a le truc aussi qui est tout bête et que je dis, parce que j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et des nièces qui ont entre 4 et 6 ans, en gros. Et quand ils font de la musique avec tonton dans mon studio, je leur dis pas, on va travailler la musique. Mon neveu qui fait du piano, il me dit, il faut que je travaille. Je dis, attends, mec, on dit, on joue de la musique. Donc, tu sais quoi, tes partitions, elles sont cool. Tu les verras avec ton père, mais avec moi, on va jouer. Tu oublies la partoche et tu trouves des notes qui vont bien ensemble, qui sont copines. Et il me fait deux notes comme ça et je dis, maintenant, voilà, maintenant, trouve un rythme qui te donne envie de danser. Et il réfléchit plus et il s'amuse autant que quand il a bossé son petit morceau et qu'il le joue en entier. Donc, tout ça pour en revenir à ta question, ça fait que je me suis un peu perdu, mais les bases musicales, c'est pour moi d'abord apprendre à réfléchir et à parler avant d'apprendre à écrire et à lire. Et si tu veux, après, c'est l'art, la musique n'est pas plus importante dans la vie que le dessin ou cet art de représentation, quoique c'est différent, c'est pas les mêmes mécanismes et ça touche pas pareil le cerveau, la musique. Mais on dit toujours qu'il y a des pays où les gens savent mieux danser qu'en France, tu vois, par exemple. Tu vois, alors tout le monde sait danser, je sais pas, aux États-Unis par exemple. En fait, c'est pas juste, ils ont pas eu de cours, c'est juste qu'en fait la musique fait partie de leur vie et que dans certaines familles, le soir, bah, ils jouent, ils font du gospel et en fait les petits, bah, ils dansent dès qu'ils ont 2 ans, dès qu'ils ont 3 ans. Et voilà, nous on sait pas danser en France, pourquoi? Parce qu'on n'ose pas danser et que c'est en faisant qu'on apprendrait.
Les Français ne savent pas danser, ce sera le titre de la vidéo.
J'ai une histoire comme ça assez terrible quand j'étais étudiant. Alors je pourrais plus retrouver les détails exactement d'où ça venait et tout, mais on avait parlé d'un truc, j'ai fait de l'anthropologie à la fac.
Okay.
Et c'était dans le contexte, je sais plus, je crois, quelqu'un qui avait regardé un documentaire, enfin, genre, il était peut-être une émission un peu façon Koh-Lanta ou un truc, où on va à la rencontre en fait d'un peuple ailleurs. Voilà, en gros. C'était pas Koh-Lanta, je sais plus, ou Rendez-vous en Terre Inconnue, un truc.
Rendez-vous en Terre Inconnue,
un truc dans ce délire. Et donc, t'as un groupe de Français qui se retrouve dans une communauté où il y a des rituels assez importants, notamment accompagnés par de la musique, etc., des pas de danse et une façon de danser. Et ces personnes, demande au groupe qui vient, et vous, c'est quoi votre musique? C'est quoi votre danse? C'est quoi? Parce que ça fait partie de l'identité, en fait, pour eux. Ils disent, nous, on a notre truc typique, entre guillemets, ça fait partie de nous. Et pour se comprendre l'un l'autre, c'est quoi votre truc?
Bah, c'est la tectonique.
Et là, les Français se retrouvent incapables. Ils savent pas quoi faire. Et ils finissent par se mettre tous les mains sur les épaules et à faire, c'est la danse des canards. Et voilà, à tourner.
Let's go!
Et à côté.
Yes.
Et alors, en tant que tel, pourquoi pas? C'est pas pour bitcher la danse des canards, mais à côté de cette communauté qui avait une danse assez complexe, avec une forme de technicité, etc., élaborée, les Français étaient un peu démunis. Alors, il y a plein de formes de culture, il y a plein d'autres choses formidables en France, etc., mais c'est vrai que je trouve que parfois, il y a une déconnexion, et c'est d'ailleurs un rapport au corps global en France, dans plein de sociétés, en Occident notamment. Et la danse en est un beau symptôme. On a du mal à danser, on a plus rapport, notamment au corps, vis-à-vis de la danse, et même de manière générale, on pourrait l'étendre à la musique, quoi.
Oui, bah, c'est ce que je te dis, c'est que c'est une question de... Je ne sais pas pourquoi c'est sacralisé. Si, peut-être parce que il y a ces monstres sacrés qui font peur... Tu vois, c'est difficile. On se dit la musique, c'est Mozart. Ou alors, quand on fait des versions plus populaires, on se dit la musique, c'est Gainsbourg et Barbara et Brel. C'est pas que ça, en fait. La musique, c'est aussi des mecs qui font du djembé sur les quais de Seine, quoi.
Bien sûr. Ouais. Et même, il y a une tradition extrêmement importante dans l'histoire française de musique folklorique, des régions, etc.
En plus,
aussi,
oui.
Et qui était extrêmement présente dans le quotidien aussi. Et qu'on pourrait d'ailleurs apparenter à ce dont je parlais, à savoir un truc un peu identitaire qui te représente, qui est.
Attention voilà. Avec les mots. Hein.
Non, identitaire dans le sens.
C'est bien, c'est vrai.
Cherche pas les embrouilles.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta BD, mon cher PV Nova? Quel était ce projet légendaire?
Et surtout, parce que dans cette émission, on vient pas faire de la vulgaire promo, Michel. Surtout, est-ce que ça s'inscrit un peu dans tout ça, ta BD? Tu sais, cette volonté d'évangéliser, entre guillemets, autour de la musique. C'est...
Ma BD, je l'ai faite avec 2 personnes, plus une éditrice, mais ces 2 personnes sont un co-auteur qui s'appelle Adrien Leray, qui a bossé avec moi sur les Franglaises notamment, et un dessinateur qui s'appelle Losty. C'est un projet qui parle de 3 lycéens qui décident de monter un groupe de musique et qui s'inscrivent à un tremplin. Donc, si tu veux, c'est une histoire qui est plutôt jeunesse, plutôt parfaitement adaptée aux collégiens, lycéens, et qui part de l'envie de partager un peu notre parcours à Adrien et moi. Donc, 2 musiciens, nous, c'est notre vie. Enfin, moi, j'étais musicien au lycée, je faisais des tremplins, je faisais ça. Donc, c'est de partager ça et puis de montrer de la passion. Alors, nous, on a 4 jeunes. Qui sont donc ces 3 dans un groupe et 1 à côté, qui sont passionnés par la musique. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être le dessin, mais c'est des, comme j'y reviens encore une fois, c'est des passionnés. Donc ce sont des passionnés qui vont parler de choses qui les animent vraiment, et en fait, à travers ça, comme ça les met dans un endroit où tout est important pour eux, ça tire toutes les qualités et les défauts humains, et donc ça fait des choses qui sont assez explicites et des sentiments forts, donc c'est sympa de raconter cette histoire. Et à travers tout ça, Il y a effectivement deux buts. Un, c'est de faire marrer les jeunes qui vont lire la BD. Et puis deux, c'est de montrer aussi que c'est cool de faire des aventures en groupe. Parce que c'est une aventure de groupe. Et les aventures humaines, c'est toujours bien de faire des trucs tout seul, mais à plusieurs, c'est là que l'alchimie vraiment opère. Et c'est là qu'on peut voir que 1 plus 1 peut faire plus que 2.
Oh là là.
Eh oui, c'est vrai. C'est
si, il est bon, il est bon.
Là, il est fort.
Moi, c'est un concept qu'on m'a appris avec les Franglaises, qu'on nous a dit qu'on voyait ça sur scène. On disait qu'il y avait un égrégore. L'égrégore, c'est un esprit qui va naître d'un collectif. C'est-à-dire que l'addition des gens sur scène va donner naissance à quelque chose qui les dépasse en tant que somme d'individus. Et c'est la transcendance aussi de Sartre, ce genre de choses. Et donc, il y a une volonté aussi par le média musical, puisque donc dans cette bande dessinée, il y a des QR codes et on peut écouter les morceaux qui sont joués dans la BD. Il y a aussi une volonté de faire, pas forcément de l'éducation, mais d'attirer l'attention au niveau des jeunes sur le fait que le rock, ça existe et que c'est cool. c'est le style avec lequel j'ai grandi. Et on fait du rock en français, tu vois, avec des textes un peu gentils, un peu accessibles. Mais voilà, c'est de transmettre notre passion et ce qu'on aime aussi, encore et toujours. On y revient. Hein.
C'est intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais d'avoir accompagné la BD de morceaux qu'il a composé.
Ah, bien sûr, ça, c'est trop cool. Moi, tout ce qui est transmédia, déjà, je suis un sacré fanatique.
Ouais, et surtout, je t'avoue que quand je vois une personnalité d'Internet qui sort une BD, très vite, je commence à faire j'en vois beaucoup.
Bien sûr, c'est red flag à mort.
Et d'ailleurs, une des personnes avec qui tu as travaillé, elle est habituée, elle a bossé avec McFly et Carlito, avec Squeezie, etc.
Oui, c'est mon dessinateur.
Mon dessinateur, absolument. Donc, c'est vrai que moi, de prime abord, je me dis, j'ai compris que c'était un nouveau business model. Quand j'ai vu effectivement qu'il y avait cette ambition un peu transmédia, multimédia, comme tu le dis, je me dis, ok, on reconnaît tes
vœux, ça va,
tu vois, je comprends la logique.
La démarche ne vient pas d'un éditeur qui est venu nous chercher en nous disant « trouvez une idée ». Non, on a monté le projet à trois, on a fait des planches test et on est allé voir un éditeur en disant « est-ce que ça vous intéresse ?» Donc, je pense qu'effectivement, le fait que j'ai une communauté et un nom qui soit connu par certains a aidé. Ils ont d'ailleurs, ça a été un débat entre nous, mais ils ont fini par mettre un petit sticker sur l'autocollant où on me voit en train de jouer de la musique en disant que dans la BD, il y a de la musique. Ouais. En fait, j'étais pas très à l'aise avec le fait d'être mis en avant par rapport à mes deux autres compères, parce qu'on a bossé tous les trois ensemble, mais l'ambition première de ce sticker, c'est d'attirer l'attention sur le fait qu'il existe des morceaux. Il y a marqué dessus, il n'y a pas marqué la BD de PV Nova, le youtubeur, aux 100 millions de vues. Il y a marqué, avec la BD, écoute la musique composée par PV Nova. Donc ça m'allait. Et puis, c'est pas... Moi, un des meilleurs retours qu'on m'ait fait, c'est qu'on m'a dit, c'est pas une BD de youtubeur.
Oui, voilà.
Tant mieux.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est réel.
T'en as déjà lu, t'as des BD de youtubeur?
Je ne lis que ça.
C'est vrai.
Oui, j'en ai plein de mes toilettes.
On t'a jamais approché pour en faire une?
Non. Jamais. Mais je suis tellement peu youtubeur. C'est ça qui est cool avec ce projet-là, je trouve. C'est que ça ne pue pas du tout le produit dérivé, quoi. C'est ça le problème qu'on a avec ça, tu vois. C'est que, je sais pas comment dire, ça peut être un produit, les youtubeurs ils peuvent vendre des t-shirts, des machins, personne se dit il faut absolument que ce soit, mais en fait c'est le fait qu'on touche à l'art, tu vois, la BD c'est un art, et donc le fait qu'on touche à ce truc là et qu'on l'avilisse un peu, tu vois, en faisant simplement un produit dérivé où tu sais que les gens ils s'investissent pas forcément autant que machin, pas plus que sur un t-shirt en fait, tu vois. Et en fait je crois que c'est ça le problème que intuitivement on a avec ce genre de...
Oui, c'est qu'il dévoie un peu cet art noble que peut être la BD, quoi.
Ouais, voilà, mais du coup là, quand dans le cas de PV, quand c'est fait avec déjà l'envie à la base, le respect du média, etc., genre les gens ils savent faire la différence.
Oui, moi je suis juste un gros lecteur et un passionné de BD et ça me faisait trop kiffer de me dire que... En fait, c'est tout l'aspect auteur de mon métier, c'est le fait de pouvoir donner vie à des personnages. Ça c'est un truc qui est fantastique aussi. C'est un pouvoir de démiurge que tu as quand tu es auteur. Tu as le pouvoir de vie et de mort sur tout un univers que tu crées. Et ça, c'est fascinant de jouer avec ça, de s'amuser. Et en fait, je pense que ce que j'ai expérimenté, c'est ce qu'expérimentent tous les auteurs. C'est-à-dire que tu penses arriver justement avec ce pouvoir de vie et de mort, et en fait, tu te rends compte que tes personnages bah, finalement, sont plus forts que toi, et ils prennent leur vie, ils prennent les rênes, et c'est eux qui parlent. Et là, c'est cool, c'est que t'as l'impression, comme quand t'es musicien, que t'es simplement un canalisateur et un vecteur, et qu'en fait, ça nous remet à une place, justement, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus humble, et kiffante de se faire surprendre par les personnages et par l'histoire qu'on crée.
Trop bien.
J'aimerais bien qu'on revienne sur un truc, c'est... parce que là, on parlait de ta BD... T'as plein d'activités différentes. En cherchant à transmettre comme ça la musique, à en faire aussi, est-ce que t'en bouffes depuis longtemps? Quel a été ton modèle économique? Lequel est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est la diversification, etc.? Et surtout, peut-être relier ça à un aspect un peu plus personnel. Tu nous expliquais, par exemple, qu'il y a eu, il y a 2 ans, une période plus difficile pour toi. Est-ce que c'était un peu lié à tout ça, à comment tu menais ta vie?
Je pense. Comme beaucoup d'artistes et de professions libérales aussi d'ailleurs, en gros tous ces métiers où tu n'as pas un salaire fixe avec une activité fixe, la façon dont tu vis ton métier et tes revenus dépendent que de toi, et donc forcément il y a des hauts des bas. J'en vivais mieux il y a quelques années que maintenant, parce qu'il y a eu une espèce de bulle des revenus, notamment sur YouTube à un moment, et que cette bulle a dégonflé depuis, et donc mon salaire est descendu aussi en fonction, et maintenant ça remonte parce que je fais des projets qui sont commissionnés, où je suis compositeur sur des projets, des commandes quoi, mais sans aucun sous-entendu avilissant dans ce terme de commande, parce qu'on est artiste. Chrono, je sais qu'il a fait ça aussi beaucoup, il répond à des commandes.
Je fais du sur mesure, moi j'appelle ça de l'artisanat.
De l'artisanat, ouais, il y a aussi ça, ouais, c'est vrai, ouais. C'est très juste.
Je suis comme un potier.
Non mais c'est vrai, c'est très juste, parce qu'effectivement pour moi la différence fondamentale entre l'artisanat et l'art, c'est l'utilité, une œuvre d'art étant par nature inutile, alors qu'une commande est utile parce qu'elle sert dans un projet, etc. Et non, c'est très très juste, j'y souscris.
Oh là là,
souscris. En fait voilà, moi je gagne ma vie par la diversification de mes activités, en gros, si tu veux. Je gagne de l'argent chaque année par la SACD pour mes textes de mes vidéos sur Internet, la SACEM pour les morceaux que j'ai écrits, que j'ai composés. Je gagne des cachets quand je suis sur scène avec les Franglaises ou autres. Et j'ai une société qui me permet de produire mes vidéos YouTube, et notamment certaines vidéos qui sont financées par des marques. Ça apparaît de façon très claire sur mes vidéos Twitch ou YouTube. Je fais du sponsoring, sauf que c'est du sponsoring cool où je teste des plugins. Là, j'ai reçu tout à l'heure un synthé que je vais tester jeudi soir en live. Donc, ça a toujours été un mélange de ça. Et puis, voilà, en tant qu'auteur aussi, en tant qu'auteur de BD, tu vois, j'ai été payé aussi par l'URSSAF auteur. Donc voilà, moi, j'ai, au moment de remplir ma déclaration d'impôt, j'ai 7 ou 8 sources de revenus qui sont pas ouf chacune, mais qui cumulés font que j'en vive correctement depuis maintenant 12 ans. Et ça a toujours été fluctuant. Il y a des années où YouTube me rapportait de l'argent, mais je faisais pas de scène. Des années où je faisais que de la scène, etc. Et donc, l'un dans l'autre, j'arrive à tenir le coup. Et heureusement que j'avais un peu d'argent de côté au moment où, en début 2019, le vase a débordé. Je n'avais plus envie de rien faire dans ma vie et professionnellement, parce que là, tu vois, j'ai pu avoir en gros 6 mois où j'ai rien foutu, j'ai pas travaillé pendant 6 mois, et heureusement que j'avais mis de l'argent de côté et que j'ai pu tenir de ça. Mais en fait, c'est une histoire de d'équilibrisme, un peu de funambulisme, ce métier. C'est-à-dire que on a des aspirations qui sont, pour la plupart, des aspirations... on veut changer le monde quand on est artiste. Tu vois, à notre échelle, on veut peut-être changer le monde de certaines personnes. Tu vois, on ne dit pas je vais pas devenir les Beatles et voilà. Mmh. Non, mais on veut changer. Comme on veut avoir un jour un courrier ou un mail de quelqu'un qui nous dit cette
j'arrête vidéo
que t'as
le
fait.
Conflit israélo-palestinien.
Oui.
Non, mais c'est, voilà, laisser une sorte de trace, c'est ça que tu veux dire, un petit héritage, un petit.
Non, alors laisser une trace sur des gens.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, moi j'ai reçu des gens de messages de gens qui m'ont dit. Je me suis remis à la musique, ou j'ai même eu des gens qui me disent grâce à ta vidéo, c'est devenu un rendez-vous quotidien avec une meuf, et voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'on est en couple et on s'est rencontrés en parlant de ton truc. Donc voilà, tu vois, ça s'est fait,
ça
s'est fait. Ça fait grave plaisir, tu vois, je vais être le parrain voilà. Direct. Donc t'as ça reste un objectif qu'on vise tous, donc sur ce fameux fil. Mais en réalité, là où on est funambule, c'est que, bah, en dessous, il y a un putain de vide. Et la condition des artistes, elle est biaisée par la vue du grand public qui voit les stars qui gagnent énormément d'argent, les Goldman, les stars de la musique et les stars de YouTube aussi, tu vois, les Squeezie, les McFly, Carlito. Ces gens-là gagnent énormément d'argent. Mais en dessous, t'as, je sais pas, peut-être 60% des gens dont c'est le métier qui en vivent, qui en vivotent, qui bouffent et tout va bien, et 20% qui sont dans une énorme galère mais qui continuent, qui s'accrochent. Je suis assez nul en pourcentage, vous voyez. Oui. En gros, la majorité des artistes, elle est invisible du grand public. C'est des gens qui cachetonnent, qui font, mais qui bouffent correctement, qui font soit du baloche, qui font des musiciens de studio, ou qui ont un petit groupe. Voilà. Ou alors aussi énormément de gens qui sont amateurs et qui font vivre ce truc. Donc, moi, si tu veux, c'est quand j'ai commencé à prendre conscience du vide qu'il y avait en bas, que j'ai flippé, et ça m'a un peu, j'ai fait une crise de tétanie, un vertige, et donc ce qu'on peut appeler un burn-out.
Et comment t'es sorti de ça?
J'ai fait une énorme pause.
Ouais.
Vraiment, tout de suite. J'ai arrêté de bosser pendant 6 mois. Vraiment, et concrètement.
Du coup, c'est quoi le moment où tu t'es dit, c'est bon, là, je suis prêt,
ouais,
on y retourne? Est-ce que ça s'est fait?
Ça a été un progressif, en fait.
Ok.
Il y a un moment où, en fait, je faisais des projets qui sont tellement, je me mettais tellement de pression, moi, tout seul, pour que ça réussisse et et que ça change la vie des gens, tu vois, que face à cette pression énorme, j'avais un horizon dans lequel il n'y avait que de l'incertitude et de l'insécurité financière et psychologique.
Ouais.
Et donc, à un moment où ça a été trop fort, et là, je me suis mis en retrait et j'ai repris goût aux choses petit à petit. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le moment où j'ai réenvisagé mon métier comme un loisir.
Ouais.
Par exemple, au plus bas de la crise, de ma crise où vraiment j'allais pas bien, j'ai commencé à taper un texte sans savoir où j'allais, et j'ai écrit un peu une heure tous les jours, et c'est devenu une fiction audio, fiction sonore que j'ai sortie l'année d'après, qui a été achetée, et donc tu vois qui m'a rapporté quand même pas mal d'argent, enfin en tout cas à ma boîte, qui m'a permis de produire pas mal de projets et de remettre un pied à l'étrier. Et ça, je l'ai fait au début en amateur.
Ouais.
Tu vois, j'ai retrouvé ce truc de l'amateur, quoi, qui de faire les choses pour la beauté du geste.
Oui, puis en découvrant aussi, c'est encore autre chose. C'est un projet qui ressemblait pas à ce que tu avais déjà fait avant,
oui,
etc.
Exactement. Et moi, en fait, c'est ça. Et ça m'a, comment dire, confirmé dans cette certitude qu'en tant que créateur, artisan, artiste, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer des territoires nouveaux.
Mmh.
Et en fait, je me rends compte, c'est ça, tu vois, comme j'ai atteint mes objectifs en musique, Sting et l'Olympia, on en parlait, tu vois. Il y a eu d'autres trucs fous, quoi. Mais je me dis, bon, voilà, maintenant, j'ai plein de nouveaux objectifs dans la vie, mais plein dans beaucoup de domaines différents. Et ça m'éclaterait d'aller bosser sur un jeu vidéo un jour, à la musique ou en tant que qu'auteur, tu vois, de créer un univers, un lore. J'ai envie d'écrire un roman, j'ai envie de faire de la musique de film. J'ai plein de nouveaux trucs et qui sont... de toute façon, dans cette fameuse horizontalité dont je parlais tout à l'heure,
ouais,
qui est d'aller explorer des domaines en toute humilité et juste à se marrer et vivre chaque expérience comme une petite bulle. D'où la BD, par exemple. Tu vois, la BD, c'était un peu là-dessus.
Ouais, tout ça, c'est très cohérent.
Et on comprend bien ce qui t'a permis un peu de remonter la pente, entre guillemets, cette nouvelle approche comme ça, d'y aller en disant le plaisir, se diversifier, faire des choses différentes. Est-ce que, parce que je pense que ça peut intéresser des gens aussi qui nous écoutent, est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce que t'as mal fait, entre guillemets, ou ce qui t'a mis dans cette situation?
Je me suis trop pris au sérieux. Même si je me mettais des garde-fous, pardon, tels que par exemple ne pas regarder les commentaires, ne pas se focaliser sur les vues, même ne pas regarder les vues. En fait, ça ne suffisait pas parce que je le faisais toujours un peu, et maintenant je suis assez radical. Et en fait, je t'ai pas répondu à la réponse sincère tout à l'heure quand tu m'as demandé en off si la BD marchait bien. Mmh. Je t'ai répondu je sais pas, ça c'est sincère, mais c'est qu'une partie de la réponse. La vraie réponse, c'est je m'en fous.
Mmh.
Et je mets un point d'honneur à m'en foutre. Il faut surtout pas. Alors ça c'est perso. Et ça parlera à certaines personnes. C'est pas un modèle universel, mais pour moi, personnellement, si je commence à me focaliser sur le résultat, je me perds. Je perds pied parce que ma quête à moi, elle est dans l'expérimentation. Et ça, tout ce qui va faire sortir de cette expérimentation, me formater, va me nuire. Donc ma fiction sonore aussi, je sais pas si elle a marché. Je sais qu'elle a suffisamment marché pour qu'on me commande une deuxième saison. Je sais que le tome 1 de la BD marche suffisamment pour que le tome 2 soit bien parti. Ça, c'est des réponses qui m'intéressent. Par contre, je n'ai pas envie de savoir les chiffres. En fait, ça rend fou, les chiffres. Ça rend fou parce que c'est une notation de ton travail et par extension, une notation de ta personne. Moi, ça me rend taré. Hein. J'ai l'impression d'avoir des notes comme à l'école, tu vois. Les likes, et en plus, c'est fascinant. C'est ça qui est terrible, c'est que ça fascine. Tu vas voir et tu dis, putain, pourquoi j'ai que 96% de likes sur cette vidéo alors que la vidéo d'avant, j'avais 98.
Oui, et ça fascine.
Tu pars en couille.
Ça obsède même.
Ça obsède. Et les commentaires négatifs, tu sais, moi, je scrollais pour chercher le commentaire négatif parmi les 1000. Tu vois, et je sais, j'en ai vu un, là, j'ai refait la même erreur. On sort une vidéo il n'y a pas longtemps avec Morgan VS. Tous les commentaires sont cool. Et il y a un mec qui dit « Ah, pourquoi t'as invité PV Nova ? Il est éclaté au sol. » Et son commentaire, je l'ai ruminé pendant 3 jours.
Oh, Dieu,
je lui ai dit, mais j'ai envie de lui répondre, mais c'est ta mère qui est éclatée au sol. Quoi.
Malgré ton expérience, ça te trigger encore. Quoi.
Et ça, tu vois, je sais que tout le monde le vit. Chacun à son échelle, même les gens qui ont 20 vues sur une vidéo, s'il y a un pouce vers le bas qui apparaît, tu te dis « Mince, je suis pas un bon humain, je suis une merde. »
J'imagine qu'il y a des degrés en fonction des personnalités de chacun, de comment ça va se matérialiser, comment tu vas le vivre réellement, tu vois.
Ouais.
Mais des personnes complètement imperméables au retour négatif, je pense que c'est...
Cyril Hanouna a l'air d'être... je le connais pas, mais il a l'air d'être imperméable à ça. c'est un exemple à la con, parce que tout le monde le connaît. Oui. Et il a l'air de s'en foutre, et s'en foutre premier degré, et tant mieux pour lui. Après, moi, je suis un peu plus hypersensible que cet homme.
Ouais, je pense que c'est une question de comment t'abordes ce truc-là, parce que moi, genre, j'ai vraiment ce truc où, quand j'ai une vidéo qui fait plus de dislikes, je me dis, ah, c'est bien. Tu vois, genre, je commence à avoir un truc plus personnel, tu vois.
Parce que ça, sinon, je veux dire que t'as un ratio like-dislike qui est moins bon.
Ça, ouais, quand il a plus de dislikes que de likes, il dit, ah, j'ai réussi à cliver, c'est que j'ai bien réussi.
Non. Mais quand j'ai plus de dislikes que d'habitude.
Que d'habitude, ok.
Ah. Je me dis, ah oui, c'est bien, ça veut dire que ça me ressemble plus, tu vois. Parce que sinon, j'ai tendance à aller naturellement vers un truc assez consensuel. Et je trouve ça chiant, tu vois. Je me dis, je préfère.
Est-ce que tu trouves que dans la vie, t'as plus une personnalité clivante et d'emmerdeur et que donc ça correspond plus à ce que t'es?
Oh, je pense.
Ok.
Je pense.
Ok.
Et ouais, donc je me dis, tiens, c'est bien, j'ai pris un risque. Je m'en suis pas forcément rendu compte, mais tu vois. Mais après, il faut évidemment que ça reste dans des proportions raisonnables, tu vois. Si tout Internet commence à me chier à la gueule,
je vais te poser des questions là.
Ouais, ouais, tu vois. Mais moi, je l'aborde comme ça parce que pour moi, c'est genre le côté consensuel, enfin vraiment que tout le monde soit d'accord et tout, tu vois. Genre, c'est un truc. En fait, j'ai ce truc où si je prends des sujets un peu clivants ou un peu tendus, j'aime bien l'idée d'essayer de trouver un terrain commun, tu vois, où les gens vont pouvoir s'entendre. Mais j'aime bien aussi quand je fais des trucs qui sont un peu plus personnels, de me dire, ah tiens, c'est cool, il y a une identité suffisamment forte que pour qu'il y ait une portion intéressante des gens qui n'adhèrent pas.
C'est vrai, après, moi, j'aurais tendance à diviser le truc en deux, à savoir... tu as d'un côté la forme et de l'autre côté le fond, d'une certaine manière.
Ouais.
Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pourront ne pas aimer le fond, mais qui reconnaîtront la forme.
Ouais.
Et en fait, moi, j'aurais presque tendance à dire, bon, OK, vous n'avez pas la même opinion que moi ou je ne sais pas quoi, ou ce que je dis, c'est, vous ne pensez pas pareil et vous dislikez pour ça, ce n'est pas grave. Limite, tu peux le dire, et ben, on n'est pas d'accord et j'ai bien fait d'affirmer.
Ouais.
Et là, je comprends tu vois, qu'on soit fier presque du dislike.
Ouais.
Par contre, sur la forme et plus globalement, que ce soit les aspects techniques, le montage, comment c'est filmé, etc. Ou même, est-ce que tu as su créer une ambiance, etc., etc. Là, je suis plus sensible à ça, parce que pour moi, ça paraît normal d'être consensuel, enfin, de chercher à rassembler le plus de monde, parce que les gens aussi sont sensibles parfois à la qualité, simplement à point de vue de la forme, tu vois, et dire, quand pas mal de gens te disent, putain, ça claque, ça a de la gueule au niveau de la forme, etc., c'est que c'est peut-être fait un truc bien, tu vois.
Ouais, non, là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Là, moi, je parlais plus en termes de propositions, de propos ou artistiques, quoi.
Après, je suis sensible à ce que dit Chrono, dans le sens où ça fait un peu plaisir de dynamiter un système duquel on est prisonnier, qui est ce système de notation, et qui va bien au-delà de la musique. On le voit avec les applications de VTC, ou les applications, les livreurs, tu vois, les notes qu'on se donne entre nous, le fait que nous, on ait des notes entre utilisateurs. Les abonnés sont des notes. Moi, ce système-là me fait péter un plomb.
Ouais, vraiment. Et en même temps, PV, enfin, je suis désolé, mais si tu mets une vidéo sur Internet, sur une plateforme comme YouTube, c'est que tu t'attends à une forme de retour aussi et que
pas
tu sais qu'il va être plus ou moins quantifié.
Non, moi, je m'attends à juste une forme de partage à la base.
Oui, mais ce partage, il n'est pas anodin. Enfin, tu vois, c'est...
Après, que les gens jugent mon travail, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas ça, hein, le problème. Je sais très bien, parce que moi, en tant que spectateur, j'aime ou j'aime pas ce que j'entends, par ailleurs. Mon problème, il n'est pas là. Mon problème, c'est que de ce système de notes va découdre énormément de choses. Et par exemple, si tu joues le jeu de l'algorithme et que tu as des bonnes notes, tu auras plus de vues et donc plus de revenus, etc. En fait, là où ça me pose problème, c'est que ça pousse à l'uniformisation des contenus. Ça aplanit tout, en fait. Ça aplanit tous les rapports sociaux. Les chauffeurs VTC, par exemple, à qui on met des notes, c'est plus des humains, ils sont interchangeables. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, tout le monde se ressemble parce qu'il faut rentrer dans un moule. Et ça, c'est un truc... Ouais. C'est très large dans notre société. Hein. Mmh. Et
je trouve que c'est vrai. Et en même temps, il y a quand même une petite latitude pour, dans l'exemple de YouTube, pour qu'un Alt236, il arrive avec un truc qui est totalement pas du tout dans la norme et qui pète quand même parce qu'il il ramène un vent de fraîcheur, etc.
Même si... gloire au grand Alt qui viendra bientôt nous voir, même si il pète dans une certaine mesure.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que ça sera jamais j'espère pour lui, mais j'y crois peu, un youtubeur à plus d'un million d'abonnés dans le futur. Tu vois.
Je pense que lui, ça le chauffe pas plus que ça de devenir.
Lui, il a peut-être pas envie d'ailleurs, effectivement. Ouais. Mais enfin, voilà, il y a plusieurs scènes, on va dire, plusieurs niches.
Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais je comprends ce truc de PV, le caractère abstrait des chiffres aussi, ça évident. Fait que genre, tu cours après un truc qui n'a pas beaucoup de sens non plus. Quoi,
en fait, tu as raison, PV, de me reprendre en disant c'est pas le retour des gens, c'est vraiment le quantitatif, etc.
C'est le moment où ça devient quantitatif.
Là, on peut se retrouver effectivement. Et d'ailleurs, pour dire à quel point c'est pas délirant de pointer ce problème du doigt, c'est que les plateformes elles-mêmes, et pourtant, c'est pas des philanthropes, ils sont pas là pour le bien-être des gens, etc. Ils envisagent parfois de masquer les dislikes, etc., voir les chiffres. Il y a des réflexions qui se font globalement dans
ils font des tests, apparemment.
Exactement. Ouais. Donc, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un problème, effectivement.
Mais tu vois, moi, j'ai un exemple concret. Je suis allé voir Dune au cinéma hier. Ce qui est super, et en fait, bon, à la limite, si j'ai l'occasion, si je croise Denis Villeneuve, je lui dirais en quoi son œuvre m'a marqué ou non. Par contre, le fait que j'aille lui mettre, je vais dire, franchement, ton film, j'ai adoré, allez, je lui mets 9 sur 10. ça n'apporte rien. Ça peut même le nuire, parce que si je lui dis, s'il a trop de bonnes notes, il va se dire, c'est cool, il va se reposer sur ses lauriers et il va nous faire une Alexandre Astier.
Alors après, il y a une autre problématique, c'est que je peux prendre cet exemple, je l'ai vécu, je ne vais pas trahir un secret. Je bossais pour Audiofanzine, et pour Audiofanzine, on faisait des tests. Des tests de matos. Et pour ces tests, il y avait une discussion au sein de l'éditorial, au sein de la rédaction. Certains considéraient qu'il ne fallait pas mettre de notes, et d'autres disaient, mais malheureusement, c'est une nécessité. Il y a eu les mêmes débats dans la presse jeux vidéo. Je crois que c'est Gamekult, à un moment, qui réfléchissait à pourquoi pas enlever les notes.
De toute façon, maintenant, ils mettent tous 18, quoi.
Voilà. Mais le problème, en fait, c'est qu'en tant que tel, le testeur, souvent, il va dire, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on lise au moins la conclusion ou les points qu'on s'arrête pas juste à la note pour que ça soit un peu étayé, en fait, le truc. La note en elle-même, elle a pas une grande valeur. D'ailleurs, elle peut être vachement relativisée par le propos ou au contraire, ça serait un petit plus. Enfin, voilà, c'est parce que c'est limité aussi la notification, en fait. Tu vois, par exemple, une note sur 10, entre un 5 et un 6, parfois ça peut être très proche. Et c'est le propos, en fait, qui va faire la différence.
Ouais, bien sûr.
Mais une partie du public, et moi, ça peut être le cas parfois. C'est-à-dire que parfois, avant de me lancer dans une série, je vais sur Allociné et je mate juste les étoiles presse, etc. Si c'est haut. Et c'est quand même un indicateur qui peut avoir une utilité pour certaines personnes parfois aussi. Et l'équilibre est super galère.
Oui, c'est juste que c'est utile pour le public. Mais en tant que créateur, c'est bien d'essayer de s'en affranchir parce que si ça commence à influencer sur ce que tu fais.
C'est vrai.
À ce moment-là, ça.
Alors, je prenais cet exemple parce que là, tu parlais de Villeneuve et de le noter, etc. Et par contre, les chiffres juste de vues sur un YouTube, c'est complètement différent. C'est encore une autre problématique.
Encore une problématique. Il y a des éléments communs, effectivement, mais il faut dire qu'en tant que créateur, j'accepte le système. Je le cautionne. Et quand je dis tout ça, c'est plutôt, comment dire, mes débats intérieurs, tu vois, je veux dire, si ça m'emmerdait vraiment, je ne ferais pas de vidéo, et puis voilà. Hein. Donc, c'est aussi une réflexion qui va dans le but d'améliorer ce système pour que je continue à m'amuser et à partager des choses dedans. Mais c'est vrai que faut pas se leurrer. Je joue le jeu de Google, je joue le jeu d'Amazon avec Twitch, je joue le jeu des VTC. Donc, ouais, parce que bon, sinon, si tu... Comment trouver sa place si tu joues pas le jeu de la société, tu finis en ermite.
Oui,
et après, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Oui. Mais ouais, je sais pas, tu vois, J'enfonce une porte en disant ça, mais parce que je fais aussi du spectacle vivant, et bien plus que la note, bien plus que les likes, une personne qui va un sourire, tu vois, ça en dit tellement plus. Donc c'est aussi parce que je connais les deux et je me dis, en fait, c'est très artificiel le succès YouTube et les vues. Je sais que par exemple les vues TikTok, ça c'est un truc, n'étant pas sur TikTok, j'ai des copains créateurs qui me parlent des vues TikTok. Et là je pense qu'on atteint un degré de n'importe quoi dans le sens où ça ne veut rien dire, c'est ultra opaque.
Ouais.
T'as les trucs qui ont été vus mais disent des millions de fois, mais ça se trouve c'est juste que les gens ils ont scrollé, que c'est apparu et qu'ils ont scrollé encore.
Ouais, voilà.
Et donc ça, là ça, c'est déconnecté en plus d'une réalité concrète. Tu vois, de est-ce que les gens ont passé du temps à le regarder ou pas. Il y a un peu ça sur YouTube aussi, parce qu'au début, ils comptaient les vues toutes les secondes. Et voilà, quoi.
Ouais, voilà.
Il y a un truc qui me marque quand même dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que sur les éléments qui ont un peu déstabilisé ta vie à un moment, ta vie professionnelle, c'est quand même très lié à YouTube à chaque fois, tout ça. C'est-à-dire que tu nous as pas trop parlé, je sais pas, des tournées harassantes avec les Franglaises, par exemple.
Ouais, c'est pas forcément YouTube. Hein. Mais oui, c'est... Bon, les tournées fatigantes, ça joue peut-être dans la capacité d'endurance que tu peux avoir. Non, je pense que c'était plus un truc de créateur et qui était lié aux attentes, je te dis, la confrontation des attentes et de l'incertitude. Et ça, c'est un truc que vivent énormément d'artistes et de créateurs et des gens qui veulent se lancer, tu vois, en même temps que tu fais un projet perso, tu fais un groupe par exemple ou un projet d'album, tu mets énormément de toi, t'es hyper motivé, mais face à ça il y a une inconnue totale qui est de savoir est-ce que va y avoir une rentabilité financière qui va pouvoir me permettre de pérenniser ce projet artistique. Donc moi je pense que c'est surtout ça, hein. J'aurais pu même sans YouTube, peut-être que ça a cristallisé la chose, mais c'était plus global, c'était une remise en soi même très personnelle, et j'ai appris énormément sur le lâcher prise, qui est donc au niveau de toute ma vie, de au-delà de la musique et de mon métier, quoi.
Ouais. J'allais te demander justement, moi j'avais noté dans mes questions, c'était quoi la leçon la plus importante que tu as tirée de ton expérience sur Internet et dans la musique en général, et tu dirais que c'est ça ? Tu dirais que c'est le lâcher prise ?
Non, ça c'est... C'est une grande leçon que j'ai appris et sur laquelle je travaille encore énormément au ouais. quotidien. Mais moi, en fait, Internet, je trouve que c'est vraiment génial en termes de possibilités, tu vois. C'est une révolution dans l'apprentissage, le partage de connaissances. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et donc, la leçon qui m'a le plus marqué de tout ça, c'est dans toute cette histoire... C'est un truc de par rapport à la motivation et la procrastination, tu vois, de se dire en gros vaut mieux faire mal et que pas faire.
Ouais.
Vaut mieux, enfin, arrêter de toujours repousser à demain, se dire que ton album tu le feras quand tu as acheté le bon micro ou le bon compresseur. Non, vaut mieux faire avec ce que tu as aujourd'hui et grandir petit à petit. En fait, c'est ça, c'est le grandir les ambitions curseur par curseur, tout doucement. Faut pas attendre d'avoir la bonne guitare avant de monter sur scène. Faut pas attendre d'avoir la dernière version de Logic ou Live avant de faire ton album. Fais aujourd'hui avec ce que tu peux et de toute façon, tu vas apprendre. Après, moi, c'est pour ça que je me suis détendu. Maintenant, je fais plus de chansons. Quand je fais des trucs perso, je les considère comme des maquettes. Mais c'est des maquettes que je publie, tu vois. Mais c'est des éternelles maquettes parce que je me dis... si je les vois comme un produit fini, je me dis là les guitares, tu vois, par exemple on a un morceau rock dans Splash, on dit vas-y la batterie c'est investi, c'est trop dommage, il faut aller en studio et voilà. Et finalement
c'est très psychologique tout ça, en fait, c'est vraiment
pas
par rapport
pu...
à...
pardon ouais. Non, et ça je le vois autour de moi, j'ai des copains qui disent ça avance là tes projets, ils me disent j'ai envie de faire un album et je reviens à la charge tous les 3 mois pour demander des nouvelles. Ils me disent ouais mais j'ai repéré un nouvel ordi là parce que le mien il est pas assez bon pour faire du son et tout. Non, pas d'excuses. Fais un album avec ton téléphone s'il le faut et puis ce sera un
en vrai ça album. Moi je trouve que c'est le lâcher prise, genre
oui je pense
c'est ce truc de dire vas-y je sors des trucs qui sont pas parfaits, vas-y, tu vois.
Bah oui, parce que en fait si tu fais rien pendant 6 mois en attendant la date butoir, tu dis ouais dans 6 mois j'aurai le bon processeur machin. En fait vaut mieux faire plein de trucs entre temps et puis dans 6 mois tu le feras pour de vrai, une fois que tu auras vraiment acheté l'ordinateur que tu voulais vraiment t'acheter.
Ouais,
sauf que tu auras gagné énormément en niveau plutôt que te dire plus tard.
Ouais,
c'est certain.
Donc vaut mieux faire des trucs Et c'est, bah voilà, c'est vraiment, il y a un proverbe qui existe pour ça, qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Voilà.
La version anglaise, elle est mieux, c'est que c'est la pratique qui fait qu'on s'améliore, quoi, tout bêtement.
Pour reconnecter un peu avec le thème plus général de ce podcast autour des manques éventuels d'éducation, de pédagogie autour de la musique en France, parce que ça fait partie aussi des informations autour de la musique. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'expérience dont tu as fait part, et de dire, voilà, moi, ce que je conseille, ou du moins, ce que j'ai vécu, comment j'ai essayé de faire, et si ça peut vous inspirer, voilà, en tout cas, je partage mon expérience. Est-ce que tu as eu l'impression que ce soit quand tu faisais des albums, quand tu faisais des vidéos YouTube, quand tu allais sur scène, etc., qu'on t'accompagnait, qu'il y avait des ressources à des endroits pour t'apprendre justement ces informations autour de la musique, à la fois pour être professionnel, prendre soin de son corps, de sa santé, plein de choses comme ça, tu vois, qui sont importantes aussi.
Les informations, je les trouve énormément sur Internet. Et quand je vois passer, tu vois, je fais des lives sur Twitch ou dans le chat, les gens me disent j'ai envie d'apprendre à utiliser Live ou Logic, peu importe. Comment je peux faire ? Ils me demandent ça. Je dis, fais comme moi, gros. Tape-toi 4 heures de tuto. Il y a des mecs qui se sont cassés la tête à t'expliquer exactement comment tout marche, machin. Et simplement, c'est déjà, ils nous mettent déjà, tu vois, le truc sous le nez. Alors après, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous mettent la béquille directement dans la bouche. Mais je trouve que c'est pour ça que je trouve ça incroyable, Internet. C'est que maintenant, j'ai des réponses à toutes mes questions pour apprendre un truc.
Ouais.
Donc, si tu veux, j'attends pas des institutions. Qu'elle soit là pour m'apprendre des choses. J'ai vraiment deux sources de connaissances. Dès que c'est théorique, Internet, c'est super, parce que je suis quelqu'un de patient et curieux, donc je vais chercher, machin. Dès que c'est pratique, là, pour moi, il y a un secret. Enfin, c'est pas un secret, c'est la meilleure façon d'apprendre un instrument, par exemple, c'est de prendre des cours avec quelqu'un en physique dans la même pièce. Que ce soit des cours en groupe ou particulier, mais en fait, de prendre des cours, ça te permet déjà d'avoir un échange humain qui fait que c'est beaucoup moins pénible et que tu n'as pas l'impression de travailler, mais plutôt de passer un moment avec quelqu'un qui se trouve, maîtrise bien quelque chose et te transmet ce savoir. Et puis aussi, ça te met ça te fait bosser parce que d'un rendez-vous à l'autre, tu n'as pas envie de décevoir la personne qui t'a transmis ses savoirs. Et donc, tu deviens, voilà. Donc, moi, je suis
pression.
Fan des cours particuliers. Et alors ça coûte cher des cours particuliers de musique, par exemple, ce que j'ai fait, parce qu'on a tous des compétences. Moi, j'ai déjà troqué des compétences pour des cours de musique. J'avais un prof de guitare, je lui donnais des cours d'internet, des cours de YouTube, tu vois, contre des cours de guitare. C'était faire, on passait autant de temps l'un et l'autre à s'apprendre des trucs. Donc ça peut être ça peut être une langue étrangère, tu vois. Il faut aussi trouver des ressources, chercher, mais d'échanger avec quelqu'un, c'est la façon la plus importante. Après, il y a des institutions qui sont censées nous représenter, nous aider, des artistes professionnels ou en voie de développement. Mais ces institutions-là, je pense à la SACEM par exemple, elles sont assez tentaculaires et ça fait un peu peur. Et si tu ne prends pas le temps d'aller rencontrer quelqu'un de là-bas, ils ne vont pas t'apporter grand-chose, alors qu'ils sont censés t'apporter quelque chose.
Mais c'est ce que j'allais dire. Je sais, par exemple, qu'il y a eu des réflexions ces derniers temps, des remarques, etc., des gens qui ont écrit des choses autour de ça, notamment dans le cadre des maisons de disques, parce que les maisons de disques, elles sont censées accompagner, en l'occurrence, vraiment l'artiste dans le développement de sa carrière, et à plein de niveaux différents. Et alors, parce que c'est une tendance un peu à la mode actuellement, mais ça me paraît légitime que ce questionnement, où il disait que cet accompagnement, il avait des lacunes terribles en termes de psychologie pour un artiste.
Ouais.
C'est qu'on n'apprend pas un artiste à gérer ses émotions, le surmenage, ce que ça va lui provoquer, l'exposition, enfin, plein de choses comme ça. Ouais. Et donc c'est pour ça que les institutions, il y a différentes formes d'institutions, de structures en tout cas, qu'elles soient publiques, privées, etc. Mais je pense que parfois elles ont un rôle à jouer quand même aussi. Notamment quand il y a professionnalisation. Là ça me paraît important.
Je fais très court parce que j'ai eu un exemple comme ça. J'ai une copine qui m'appelle parce qu'elle a été contactée par un label. Et elle m'appelle en me disant « Ouais, je sais pas quoi faire, j'arrive pas à composer. Est-ce que tu connais pas des compositeurs qui pourraient m'aider? Comment je peux faire? Quelle démarche je fais? Je vais voir quelqu'un pour lui dire « Vas-y, mais c'est un projet en développement, je sais pas s'il y a de l'argent, tout ça. » Et au bout de 2 minutes, je lui ai dit « Mais attends, mais... ça, c'est le taf du label. Donc, en fait, n'aie pas honte de leur dire ça. » Et elle était un peu timide, c'était son premier projet, donc elle n'osait pas poser les questions. Mais effectivement, le fait que le label n'ait pas suggéré de faire ça, c'est quand même assez grave parce que c'est leur boulot, quoi.
Ouais, s'ils peuvent s'épargner du travail et prendre l'oseille.
Mais oui.
T'allais dire un truc, Michel, aussi tout à l'heure par rapport à tout ça.
Oui, j'allais dire, je pense que c'est un truc assez global. Genre, il y a vraiment un truc où, en fait, alors, on peut pas. On peut pas être accompagné tout le temps et on va devoir se casser la gueule et tu vois genre ça fait partie du truc aussi tu vois genre moi c'est le reproche qui revient souvent à l'école et c'est un reproche que j'ai fait aussi maintenant j'en ai plein à foutre tu vois mais ce truc de tu vas à l'école t'apprends Pythagore et t'apprends pas à remplir ta fiche d'impôt tu vois genre il y a des trucs dont on a vraiment besoin au quotidien et pour lesquels on a aucune formation et genre typiquement la psychologie genre comment gérer ta charge mentale, comment t'alimenter proprement. En vrai, genre, je pense qu'il y a des trucs qu'on essaye de faire quand on est trop jeune, mais genre, des trucs de diététique de base, je les ai appris en autodidacte au moment où j'ai commencé à faire du sport. Genre, c'est quoi les macronutriments, le machin, tu vois, genre des trucs comme ça. Genre, tu sais pas comment bien manger, bien dormir, bien t'insérer administrativement, etc. Personne te dit ces trucs-là. Et genre, ça, c'est des trucs où on est tous désemparés vis-à-vis de ce truc-là, tu vois.
Petite parenthèse, en faisant du théâtre, j'ai appris à marcher et à respirer.
C'est fou.
Je pensais connaître, hein, mais non. Je suis genre, ouais, respirer, tu vois. Respirer, c'est fort quand même.
C'est chaud. Hein.
Mais en fait,
tu nous feras des cours, je te montrerai des trucs.
Vous ferez un petit troc.
Ouais, je montrerai le curl pulley, tu me montreras respirer.
Comment ça marche.
Moi, je veux un cours pour de tweetage. Comment te tweeter.
Je serais chaud.
Ouais, je suis à moitié d'accord avec toi dans le sens où tu peux pas faire reposer ça sur l'individu à chaque fois. Dans le sens où
parce que déjà... non, il est libéral chrono quand même.
Oui, ça je le sais bien.
Génération macro quoi.
Il est pas très de gauche.
Ah, je suis très
macro.
Très
hein, je dis pas Macron.
Oui oui voilà. Mais macro.
Macro. Le poisson. Le poisson. Ah, macro, oui, okay, qui est très indépendant tu vois, qui fait sa vie tout seul.
Ouais.
Non mais d'une part en fait c'est déjà ça peut faire des dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mal après et que notre société, on essaie de prendre soin des gens, de nous, etc. Et parfois, ça repose sur la cellule familiale, etc. Et puis parfois, c'est la communauté à travers ses institutions, l'État, etc. C'est normal aussi de prendre soin des autres et d'éviter les problèmes et donc de les aider avant qu'il y en ait, quoi.
Ouais. Bah, moi, ce que je faisais là, c'était un constat, c'était pas un...
Oui, oui, genre, d'accord.
Je disais pas, c'est super
mais,
comme
mais,
ça,
mais,
tu
mais
vois.
C'est emmerdant quand même. Ouais. Parce, et encore une fois, dans le cadre professionnel, quoi.
Et alors, il y a aussi, il y a des choses qui existent. En fait, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a des choses qui existent et les gens ne le savent même pas. Tu vois, parmi tous les musiciens qui nous écoutent, on va faire un petit sondage là dans le live Twitch. On n'est pas en live Twitch, merci. combien connaissent l'IRMA, l'Institut de ressources pour les musiques actuelles?
Certainement peu.
Et pourtant, c'est bien dommage parce que l'IRMA, c'est des gens qui sont là pour justement transmettre des connaissances sur la professionnalisation, pour éditer. Moi, j'ai deux bouquins. Non, j'en ai qu'un ici, là, c'est les contrats dans la musique. C'est un bouquin qui t'explique les différents contrats. Quand tu vas voir un label, c'est quoi la différence entre un contrat d'artiste et un contrat de licence? Et bien, ces ressources, elles existent, mais alors, l'information ne vient pas jusqu'aux gens.
Et bien alors, tu vois, on peut reconnecter avec les vocations de transmission dont on parlait, etc. J'ai plusieurs de mes vidéos dédiées à ces sujets.
Oh là là, la légende.
Où j'explique les différents types de contrats.
On
a fait un podcast aussi sur le droit d'auteur. Comment ça fonctionne le droit d'auteur avec un spécialiste, etc.
Ça,
donc, mine de rien, tu vois, on peut servir à ça.
Je ne veux que ça, moi.
Ouais,
je veux qu'il y ait mon prochain.
C'est important. Et l'idéal reste qu'il y ait des... Je sais pas comment dire, j'aime pas trop le terme vulgarisateur en général. On parle souvent de vulgarisation sur Internet. J'ai jamais trop compris ce terme. Moi, je préfère parler d'éducation, d'information, de pédagogie, j'en sais rien, tu vois. Mais... enfin, bref. Et il y a des gens, je pense, qui doivent se faire la passerelle, en fait. Et surtout, ensuite, les gens comme nous, par exemple, on doit derrière dire « Eh, regardez, cet institut existe, cette structure existe, etc. » Elle peut, si vous voulez aller plus loin, moi, je vous donne quelques bases. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir ces gens.
Après,
en tout cas, ça me paraît important.
Sans devenir ultra libéral, c'est vrai que. Parce que je le suis pas.
T'as très attention.
J'ai pas l'impression de le devenir. Non, mais c'est vrai que simplement, parfois, moi, c'est mon expérience personnelle, en tapant dans un moteur de recherche ma demande, j'ai découvert que justement, il existait des. Et c'est vrai que je veux pas non plus le Google it for me, quoi. Je veux pas non plus que les gens le fassent à ma place. Mmh. Et je suis tombé, l'autre fois, c'est débile, mais sur une vidéo sur faut-il déclarer ses droits d'auteur en revenu BNC ou en salaire, et ben en fait, c'est une question qui, depuis 4 ans, je me la pose à chaque fois, tu vois, au moment de la déclaration d'impôt, je fais mince, qu'est-ce que je fais? Et la réponse, elle est un peu complexe parce que c'est des impôts, mais elle a été simplifiée. Il y a des gens, je sais plus qui, mais en gros, il y a des gens qui ont pris la peine de faire ces vidéos, elles existent. Donc, c'est aussi un peu à moi de chercher ça. Tu vois, je veux dire, moi, je suis pour accompagner les gens, mais voilà, je suis pas du tout d'un tempérament libéral, mais...
Et on est, déjà, on n'est pas tous égaux vis-à-vis ensuite de la gestion de cette information. On n'est pas tous capables de faire en sorte, derrière, de comprendre, etc.
Dis-le que les gens sont cons.
Non, mais c'est pas ça. Dis-le. C'est que moi, je me suis déjà retrouvé dans la situation... Le statut d'artiste-auteur, par exemple, c'est une galère absolue.
Ah, l'URSSAF, c'est l'infernal.
Je me suis déjà retrouvé dans la situation où je devais discuter
à la fois
avec l'URSSAF, à la fois avec le chômage, etc., où les gens même, ils me disaient tous l'inverse, n'importe quoi. Donc même les professionnels eux-mêmes sont perdus. Alors qu'est-ce que tu veux ensuite que le type derrière son ordinateur qui Google, il comprenne en un article.
Moi, le jour où j'ai monté ma société, je suis allé voir Pôle emploi, j'ai dit je peux continuer à être intermittent en même temps que chef d'entreprise. Et la personne que j'avais en face de moi m'a dit oui, à qui je faisais confiance. J'ai redemandé heureusement après, parce que la réponse est non. Et donc j'allais me mettre en fraude, et si j'aurais pu avoir un trop perçu et devoir faire un chèque de 5000 balles à Pôle emploi derrière. Tu vois. Yes. Et donc c'est vrai que c'est des gens qui sont garants d'une forme de savoir, et tu les crois. Mais oui, on est. Mais ça, en fait, et je raccroche les wagons avec ce dont on parlait de
on fait que
sur le travail de vidéaste. C'est à nous, en tant que corporation, aussi, de prendre ces responsabilités là. Moi, des fois, quand j'en veux à la SACEM, entre guillemets, de ne pas me transmettre une information, je me dis, bah, attends, la SACEM, moi, j'en suis actionnaire. C'est aussi moi, la SACEM. Peut-être que faudrait que je m'empare un peu plus de ce sujet. Et j'en parlais avec pas mal de copains vidéastes, parce qu'on a monté une initiative de syndicat, entre guillemets, grand mot, une guilde de vidéastes, qui s'appelle la guilde des vidéastes, ça tombe bien, et sur lesquels, en tant que les anciens youtubeurs, on a commencé à avoir quelques acquis, à pouvoir faire entendre notre voix auprès de nos partenaires, que ce soit les institutions publiques ou YouTube et autres. Et là, il y a eu déjà quelques petits niveaux, mais c'est pas grand-chose, c'est le premier niveau. Et là, maintenant, j'en parle avec des copains qui sont sur Twitch, qui me parlent de leurs revenus gérés par Amazon et tout, et comment ils comprennent pas pourquoi il y a des baisses, pourquoi aucune information, aucune opacité. Et j'ai l'impression qu'on a encore fait un pas en arrière. Et donc, il faut que les...
À chaque fois, c'est parce que c'est jeune. Genre, en fait, il faut le temps que ce média-là se professionnalise. Et Twitch, mine de rien, même si ça fait longtemps que c'est là, genre, ça commence seulement à se démocratiser et il faut essuyer
et
plâtre.
On réinvente
en plus, derrière,
fois,
s'il y a un aspect administratif derrière, on sait que l'administration, c'est rarement les mecs les plus...
Twitch, l'administration américaine, c'est l'enfer. L'enfer. Ouais. Mais c'est... On réinvente la roue à chaque fois, quoi. Tu vois.
Ouais, voilà.
Donc, c'est... On perd du temps tous. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je prends ce temps, par exemple, quand les gens me posent des questions de cet ordre-là, pratico-pratique, d'organisation, je prends le temps de répondre parce que j'aurais. Des fois, les gens ne savent pas à qui poser la question et se disent, lui, il parle de musique, ça se trouve, il s'y connaît. Moi, des fois, Cyprien m'appelle pour des questions de droit d'auteur sur ses vidéos, auxquelles j'ai un peu des réponses, mais c'est vrai qu'il se dit, en fait, il ne sait pas à qui poser la question. C'est quand même incroyable, alors que Cyprien, c'est un mec qui a du réseau et qui est vraiment fondamentalement intelligent en plus. Hein, donc. Tu vois, il se dit, je vais appeler PV pour savoir si j'ai le droit de mettre ce morceau dans ma vidéo. Parce que l'information ne circule pas.
Ouais.
On a un peu glissé là de nous-mêmes, donc c'est parfait. Je ne sais pas quand est-ce qu'on mettra, qu'on est passé dans la deuxième partie. Mais c'était justement essayer de pointer un peu du doigt des formes de manque ou de points qu'on pense pouvoir être améliorés globalement dans tout ce qui est information, pédagogie autour de la musique. On a déjà un peu parlé de ça. Moi, il y a un autre truc, par exemple, et Michel, je te laisserai la prochaine question, mais parce que c'était vraiment comme ça que je voulais ouvrir, parce que ça m'a marqué. J'ai vu que tu avais bossé avec France Télé. Tu as fait des formats pour France Télé. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit...
France TV Éducation.
France TV Éducation.
À disposition des profs, ouais.
Mais je me suis dit, en télé, il y a très peu de trucs autour de la musique de manière générale, déjà. Il y a quelques rares trucs autour du live, et encore, c'est pas en France, hein, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Et alors, en éducation autour de la musique, ou en tout cas, à transmettre un peu de l'information, etc., alors, c'est quasiment zéro. Un peu plus en radio.
On a le Z. Le Z, Jean-François Ziegel.
C'est vrai, c'est vrai.
On l'avait, il bosse. C'est fini, non?
C'est fini. Je sais pas.
On a le D aussi, André Manouk, Dédé Manouk.
Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais alors il est plus souvent à la radio quand même,
c'est vrai,
qu'à la télé. Et même Ziegler, c'était quand même très spécifique, une niche musicale. C'est pas non plus une quotidienne, etc. Enfin, il y a tellement de chaînes, tu vois, globalement par rapport à l'offre possible. Tu vois, c'est pas grand chose. Et je me suis dit, ok, France Télé, c'est cool qu'ils fassent appel à PV, mais déjà ils ont pas les compétences en interne. C'est-à-dire que c'est une boîte tellement... c'est une grosse boîte, tu vois. Mais c'était très cool que t'aies pu trouver ça. Mais tu sais, me dire que c'est un service public. Et qu'ils ont personne maison pour faire un format tous les ans, régulier, etc. Et ils sont obligés d'aller prendre les talents qui ont émergé ailleurs, parce que sinon, ils n'ont pas ça. Enfin, ça m'a paru assez fou.
Oui, c'est vrai.
Et, Et d'autre part, pourquoi c'est pas dans leur... Ça devrait être... France Télé, ils devraient avoir une émission autour de la musique, d'information autour de la musique. C'est un service public, mais toute l'année, tout le temps. Comment ça a été, ouais, cette collaboration avec France Télé?
Écoute, comme tu dis, c'est des intermédiaires d'intermédiaires. Donc moi, c'est un producteur qui m'a contacté avec qui j'avais déjà bossé pour faire ce projet. Et donc, c'est particulier cette plateforme France TV Éducation parce que c'est une ressource, comme c'est du service public, qui est mise à disposition des profs qui ont toute une passerelle, donc un site internet qui est dédié. Et selon ta matière, tu as des ressources vidéo, qui est en soi une assez bonne initiative. Puisqu'on sait que les collégiens, si tu as le cours du vendredi soir de 16 à 17, ils ne sont pas forcément au taquet. Donc, des fois, leur mettre une petite vidéo de 4 minutes, tu sais comment ils vont regarder, écouter et peut-être même retenir des choses. Donc, le format, moi, je le trouvais cool. Le sujet, je l'ai choisi, donc il me parlait forcément. Mmh. C'était l'histoire des inventions musicales. Mais j'ai eu aucun, pour te dire... absolument aucun accompagnement pédagogique. Personne n'a vérifié ce que je disais.
C'est réel?
Oui, c'est vrai, ouais.
Wow.
Alors nous, que c'est la destination d'enfants
de profs.
Ouais.
Et nous, on avait cette conscience professionnelle, mais je crois qu'il y a un épisode où je dis une bêtise ou une approximation qui a été corrigée sur YouTube par un commentaire, et donc j'ai mis fait un erratum, c'est un commentaire épinglé, mais je pense que c'est un petit détail, mais dans la version des profs, elle s'est pas corrigée. donc
la génération future, c'est foutu.
On va leur apprendre plein de conneries à cause de PV. Ouais.
Donc t'as ce truc, on était un peu livré à nous-mêmes, mais en même temps, j'ai les mêmes exigences vis-à-vis des contenus que je livre que les profs, donc c'est aussi à moi de vérifier ça.
En fait, c'est pas pour parler spécifiquement de ce cas-là, ton travail à toi, etc., ouais. Mais c'était pour dire, il me semble que la vocation du service public, des médias de service public, elle peut être aussi de travailler autour de la musique de manière générale, et il me semble qu'il y a un gros manque à ce niveau-là, tout simplement.
Ouais. Encore une fois, moi je pense que dans mon idéal d'éducation, la musique se ferait par la pratique, par des ateliers, des travaux pratiques et des jams, quoi.
Ouais, mais c'est un ensemble, PV.
Un mélange, oui, c'est un ensemble.
C'est-à-dire que pour que c'est un peu comme plein de problématiques dans notre société où on dit, oui, mais les gens, il suffit d'avoir envie et on le fait. Mais l'envie, ça se provoque. Il faut qu'il y ait un contexte favorable, culturel, un terreau, etc. Qu'on en parle, qu'on l'entend à la radio, qu'on en discute avec les parents, avec les copains à la cour de récré. C'est ça qui ensuite donne envie de se mettre à la pratique, en l'occurrence, tu vois.
Ouais.
Bah, ça dépend, je sais pas, genre, si juste tu les fous, juste tu mets du matos à disposition, déjà, je pense que ce sera différent. Tu
sais, ouais, mais
ça, dans toutes les écoles, ou genre, en plus, la cour de récré, il y a un instrument de chaque sorte, je pense.
Non, mais bien sûr que d'avoir à disposition, ça facilitera encore les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si avant, le gosse, tu le mets dans une salle remplie de matériel, et dans un monde imaginaire, jamais de sa vie, il a entendu parler de musique, il va s'en battre les couilles de ta salle imaginaire. Tu vois. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est juste que il y a plein de trucs dans la vie de manière générale qui te poussent à te dire c'est cool la musique. Et donc à t'y intéresser, voilà. Et je pense qu'on peut le travailler encore plus, notamment dans l'optique d'avoir plus de pratiquants, pas de professionnels forcément, parce que c'est encore une autre démarche, mais juste de gens qui s'épanouissent à travers une pratique, un loisir, et qui peut faire du bien en fait à plein de gens, j'en suis persuadé. C'est là où faut accéder en fait le truc. Quoi.
Un loisir et une façon de s'exprimer aussi.
Absolument, ouais, absolument, bien sûr.
C'est du langage,
oui, c'est pour ça que je parlais d'épanouissement, parce que ça va, je trouve que faire de la musique, c'est un truc incroyable. On est tous là pour en témoigner. Donc, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à plein de gens, effectivement.
Je suis curieux. Je ne sais plus trop où me placer par rapport à ça, parce que je ne sais pas si c'est juste une lecture de moi, ce que je considère être comme un échec pédagogique sur YouTube, tu vois. Mais je me demande si ce n'est pas trop important pour la majorité des gens de conserver ce rapport presque mystique à la musique, tu vois, et de se dire, y a les gens qui font de la musique, ceux qui sont touchés par la grâce de la musique et qui le font, et puis il y a nous. Et nous, on écoute,
et
on aime bien, on n'aime pas et tout. Et ce truc-là, je n'ai pas la réponse à ce truc-là, mais je suis en questionnement par rapport à ça. Je me demande.
Moi, je suis encore touché par la grâce, hein. Même si je.
Toi, personnellement, tu veux dire que PV, tu es touché par la grâce?
Non, quand j'écoute un morceau. Tu vois, quand j'écoutais, on parlait de recommandations musicales tout à l'heure, une version orchestrale d'Eleanor Rigby. Donc bon, là aussi, c'est complexe. Oui. Mais des fois, j'écoute des choses plus simples, des lives de blues, ultra simples. Les accords, on les connaît. Mais j'arrive encore à trouver cette part de mystique dans...
Ah mais, ça, genre,
mais c'est comme la poésie.
Tous les musiciens seront d'accord. Oui. Tous ceux qui pratiquent la musique seront d'accord avec ça. Par contre, je pense que les gens qui n'ont jamais eu d'éducation musicale ni même d'attrait pour le faire, je me demande s'il n'y a pas une grosse partie qui, justement, a peur de perdre ce côté-là et que pour eux, c'est précieux de conserver ce truc de... On a ce truc, c'est en vrai, dans un univers... désenchanté dans une société où il y a très peu de place pour le mystique en vrai, tu vois. Genre, on a une société qui est très rationaliste, etc. Tu vois, genre, un des rares endroits où il peut rester une forme de mystique, est-ce que ce serait pas précieux, tu vois?
Mais c'est intelligent ce que tu dis. Je comprends.
Je suis littéralement un zèbre.
mais je pense que ceux qui pensent, enfin, si les gens pensent ça effectivement, ils se trompent parce qu'à chaque fois que tu avances dans une discipline, un domaine, je ne sais quoi, tu découvres encore d'autres horizons derrière et qu'il y a toujours une fascination qui sera exercée parce qu'il y aura toujours des gens qui auront fait des choses, etc. Et qu'en plus, à l'inverse, je pense, je sais pas si j'ai peut-être une connerie, mais je veux dire, peut-être que ça permettra de démystifier aussi certaines personnes qu'on juge comme touchées par la grâce alors qu'ils ne le sont pas et que ça ferait du bien de les ramener à terre.
Comme qui, par exemple?
Je sais même pas.
Des noms.
Mais je vois pas, c'est pas clair, il faudrait des exemples concrets, quelqu'un très terre à terre. Et pourquoi tu penses à lui en particulier?
Non, c'est Michel qui veut des noms dans une autre question.
Ah oui, moi je me demandais s'il y a quelqu'un que tu détestes dans l'industrie musicale et si oui, qui? C'était pas une vraie question.
C'est la question de Michel.
Non, non, mais ouais, quand même. Est-ce que je déteste? Non, j'ai eu une expérience douloureuse sur un des comités des reprises avec un ou une invitée qui était vraiment odieux, odieuse, mais qui s'est excusée par la suite et on a eu plus de contexte. C'était un moment difficile de sa vie. Et voilà. Donc j'ai cru pendant un moment que je détestais quelqu'un et comme je la déteste plus, bon, j'ai dit c'était une femme, ça y est, j'ai dit je l'a. je ne répondrai pas. Mais j'aurais répondu différemment cette question il y a 2 ans avant, parce qu'on a eu des excuses.
Oh là là.
3 ans après.
Ah ouais.
Ouais. Mais donc pendant longtemps, je me suis dit vraiment qu'elle connasse, quoi.
D'elle-même, elle est revenue vers vous?
Ouais.
Ou c'était parce qu'elle a entendu.
Il y a eu un contexte de contact à distance, mais voilà. Okay. Non, moi, j'ai du respect surprise. Je sais que c'est du respect qui peut étonner des gens. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Vianney.
Okay.
J'écoute pas forcément ses chansons. J'écoute pas. J'ai écouté un peu une ou deux chansons du premier album. Par contre, sur scène, je trouve que ce mec est d'une générosité folle. Il est seul sur scène. Je l'ai vu seul sur scène, en fait. On passait au Franco. Je l'ai vu tout seul devant 20 000 personnes. Et il envoyait du steak, pas possible.
Ouais.
Hyper bon guitariste, super chanteur. Et t'es là, il fait des versions, du coup, pas du tout mièvre. Et c'est du guitare-voix, tu vois. T'as que ses textes et ses trucs. Et donc, moi, je sais que j'aime bien dire ça aux gens parce que ça surprend. Je respecte énormément Vianney.
Bisous Vianney. Moi, je ne sais pas. Le seul truc que je connais de Vianney, c'est le moment où il chiale quand il y a un type qui fait un slam anti-avortement. Là.
Ah oui, c'est
incroyable. Mais c'était. Bon, après, ça a le droit de le toucher. Il paraît qu'il est très croyant, machin, etc. Tu vois, donc c'est.
En fait, je pense que ça illustre un truc, Vianney et d'autres personnes comme ça, c'est qu'il y a plein de gens extrêmement talentueux, mais qui n'ont pas de bon goût. Non, mais moi je crois beaucoup à ça. Mais c'est-à-dire que
Andrés, il croit qu'il est comme ça.
C'est vrai. Il pense qu'il est extrêmement talentueux.
Il pense qu'il est très fort, mais qu'il a des goûts de merde.
Mais c'est pourquoi pas. Ça peut être beau, hein, tu vois. Mais je suis vraiment persuadé qu'il y a plein de gens où, de prime abord, on pourrait juste dire parce que c'est pas dans nos goûts, c'est une merde, ou c'est un nul, ou je ne sais quoi. Mmh. Non, je pense qu'il y a vraiment plein de gens talentueux et au-delà de ça, même sympa ou bête de scène, ou je sais pas. Enfin, plein de qualités. Mais le grand problème, c'est le goût.
Oui, mais le goût, c'est.
C'est très subjectif en plus.
Voilà, on n'en discute pas.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens de mauvais goût surtout.
Ouais, moi, d'expérience que j'ai eue, notamment du comité PACOM, et là où on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'invités, c'est aussi que des gens qui sont vraiment très hauts, il n'y a pas de secret, c'est pas des tocards. Il n'y a pas d'arnaqueur. Oui, tout en haut, il n'y a pas d'arnaqueur. En fait, moi, là où je juge, c'est le travail. C'est des gens qui ont une capacité de travail folle.
Oui, parce que tu n'arrives pas à ce stade-là sans. En plus de tout, du talent, des contacts, machin, etc., charbonner comme un ouf. Par contre, je me dis que moralement, il doit y avoir des moments où c'est peut-être pas tout rose dans ces sphères-là. Quand t'es très, très en haut, il peut...
Ouais, bah ça.
C'est aussi compliqué. C'est comme dans... Enfin, moi, je fais le parallèle plutôt avec l'industrie vraiment industrielle, quoi, tu vois.
L'automobile, par exemple.
L'économie, okay. Tu vois, où tu te dis, genre, c'est dur d'être au top sans marcher sur les autres, en fait, au bout d'un certain moment. Tu vois ce que je veux dire?
Ça serait possible.
Mais ça, après, c'est, moi, je côtoie que très peu le top, donc je suis très curieux. Quand j'y serai, je vous dirai.
Ouais, tu nous verras des
petits messages. Tu comptes lancer ta marque de quelque chose ou
toi? Bah, t'inquiète même pas. On va diversifier les revenus.
Très bien.
Allez.
Mais je pense, les gars, qu'on a fait un bon tour quand même de plein de thématiques extrêmement intéressantes. Pour terminer, pour un peu conclure cet épisode autour un peu des savoirs, de la transmission, etc. PV, et peut-être Michel d'ailleurs aussi, où est-ce que tu te renseignes, toi, pour découvrir des nouvelles choses et pour étendre ton savoir autour de la musique, des nouveaux groupes, des informations effectivement sur comment mener ta carrière, je sais pas, des trucs très professionnels, mais des trucs aussi juste de découvertes, de vidéos, je ne sais quoi. Tes canaux un peu privilégiés pour découvrir des trucs, alors, que tu pourrais filer comme astuce à ceux qui nous écoutent et nous regardent.
Mais pour découvrir de la musique, mes deux canaux privilégiés, j'en ai un troisième maintenant. Mes deux canaux privilégiés, ce sont Spotify et YouTube, parce que ça fait des années que je travaille un algorithme qui connaît très bien mes goûts. Et donc, par exemple, sur Spotify, je déconne pas. Si quelqu'un veut écouter un son, je lui dis, attends, tu te mets en lecture privée, je veux pas que tu ne touches pas à mon
algorithme.
En
soirée, t'es relou, quoi.
À soirée, ouais. On ne touche pas à mon algorithme. Il y a ça. Il y a... Depuis peu, je regarde une émission sur Twitch le matin... Un type qui parle de musique qui s'appelle Flonflon,
oui.
Et qui parle de l'actualité musicale et qui fait écouter les découvertes et qui débriefe. Et donc dans le chat, on n'est pas beaucoup, on est une petite centaine, donc les gens font remonter des trucs. Pour apprendre des choses, des connaissances, j'ai évidemment YouTube qui est mon partenaire au quotidien. Et l'autre truc, c'est que quand je vois quelqu'un, moi je tiens la jambe des gens qui ont un savoir que j'ai pas. Mais littéralement, je leur attrape la beuge et je leur dis « teach me ». Apprends-moi tout. Donc, par exemple, j'ai fait plein de sessions de mixage avec des ingé-sons où j'étais à côté et plutôt que de dire, ils te demandent de valider si c'est bien ou pas, je disais comment t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'as fait? Après, tu fais quoi? Donc, vraiment poser des questions. Et les mecs, en fait, sont souvent contents de donner leurs petits trucs, leurs petites astuces. Donc, faut pas avoir peur de poser des questions. Faut pas avoir peur de passer pour quelqu'un qui sait pas. C'est pas grave de pas savoir. Voilà. Ce qui est grave, c'est de pas demander. Enfin, c'est con, c'est pas grave, c'est con. Oui. Donc, énormément j'ai appris énormément comme ça. Et en fait, je fais ça tout le temps, mais même des fois, quand je vois un guitariste ou une guitariste que je croise sur en balance sur un festival, je lui demande pas une masterclass de 20 minutes, je lui dis juste, t'as fait un petit plan là, c'était quoi? Il me montre trois notes, je fais ok. Tu vas prendre des choses petit à petit. Je trouve que c'est aussi important de faire comme ça. Et là, en ce moment, c'est Twitch à mort pour découvrir de... Je regarde pas beaucoup de musiciens, je regarde beaucoup de créateurs dans d'autres domaines, des dessinateurs, sculpteurs. Parce
qu'il y a quand même peu de choses en musique encore sur Twitch, mine de rien.
Relativement peu, ouais.
Et tu sais
ça
quoi?
Ça vient petit à petit.
On l'avait déjà dit dans cette émission. Oh. Moi, j'ai été très content de te voir arriver sur Twitch parce que je trouve qu'il y a une vraie ambition dans ton setup, etc., dans ton contenu. On sent en fait que...
Oui.
C'est con, hein, mais peut-être que j'extrapole, mais que tu viens de YouTube, que tu sais ce que c'est qu'un format... Que tu as envie d'avoir une vraie émission, pas juste lancer un live comme ça et discuter et improviser tout le temps. Et ça fait du bien à cette plateforme, je trouve. J'aimerais voir
aussi,
plus de contenu travailler comme ça sur Twitch personnellement.
Après, je vais te dire, c'est marrant parce que j'ai fait un peu le cheminement inverse.
C'est vrai? T'es plus à la cool maintenant?
Légèrement, j'ai assoupli les bords du cadre.
Oui, mais ça n'empêche pas. Mais ça, t'as peut-être raison, parce que moi, ça peut être un défaut que j'ai aussi parfois. C'est que, en voulant trop, tu te rends compte que ça ne correspond pas à Internet parfois, de trop.
Voilà,
c'est pas de la télé, etc. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais cette idée, quand même, que. Enfin, moi, en tout cas, peut-être pas tout le public, j'en sais rien. C'est tes chiffres et tu verras bien qui te regarde. Mais je suis assez sensible au côté. C'est un peu préparé, quoi. C'est un peu préparé.
Oui, oui, oui.
On arrive et on sait ce qu'on va dire à peu près. Après, on va élaborer ça ensemble aussi, avec le chat, etc. Mais il y a une base et ça nous permet d'avoir un truc à peu près avec du rythme.
C'est ça. Avant, je préparais tout. C'est-à-dire que je préparais les arrangements, les morceaux, je les recrée en live. Maintenant, par exemple, là, je reprends un live tout à l'heure. Donc, je suis en train de... je me suis remis à faire la lambada version western. Là, je sais que je fais un passage où je voudrais des bruits de saloon. Je veux un piano de saloon parce que je ne l'ai pas exploré, ce son. Et je veux des mariachis mexicains qui viennent jouer.
Ouais.
Ça, j'ai prévu juste ça. Après,
il y a un plugin très cool
qui
s'appelle Drinking Piano. C'est une banque de sons pour contact. C'est Drinking Piano, ouais. C'est un piano, genre, il y a pas mal de presets de détuning différents.
Ok.
Ouais, je crois que c'est Sound Iron qui fait ça. C'est un plugin qui est déjà assez vieux, mais je pense qu'il est toujours pertinent dans ce style.
Bah, ouais, moi je me suis dit que je partirais du vieux Tac Piano de Keyscape, de Spectrasonic.
Ouais, ouais.
Et que je vais travailler
détuner
avec
manuellement.
Room, ouais. Et puis détuner ouais, à la mano, tranquillou, quoi. Ouais. Et puis les. Ouais, bon, après on verra.
Oui, oui, non,
donc je sais à peu près où je vais. Après, ouais. Voilà, j'ai une exigence entre guillemets de résultat. Mmh. Mais. Le reste, c'est plus fluide. Et moi, je trouve que c'est vraiment Twitch, la plateforme qui m'excite le plus, et en tant que créateur, et en tant que spectateur.
Mmh. Plus que cool. Pornhub.
Et touche-touche.
Ouais, pareil. Quoi.
On
ouais.
est vraiment touche-touche, quoi.
Michel, toi...
Shatterbait, ouais.
Tu fais Shatterbait.
C'est ça.
Et hormis Pornhub, Shatterbait et compagnie, est-ce que tu as des sources comme ça, un peu d'informations autour de la musique pour découvrir des trucs et tout, que tu pourrais filer des tips
ouais. Source en japonais se dit Bukake.
Pardon, c'est vrai?
Enfin, c'est Fontaine, mais c'est
ah
presque
oui.
ça.
Ah oui, ouais. Oui, c'est vrai, bien vu.
Il faut mettre un terme à cette émission très vite. Ouais. Michel, alors, vas-y.
Bah, clairement, YouTube en balle, j'en ai déjà parlé, mais Adam Lily, typiquement, ça fait partie des types qui vont m'inspirer, les Adam
Je
Lily.
Je connais même pas Adam Lily.
Adam Lily, N-E-N-2-E-L-Y. C'est,
tu fais Kekro, quoi.
Alors, attends. PV, tu vas faire un truc, s'il te plaît. Tu oui. vas aller regarder l'épisode d'un podcast qui s'appelle Dans le Tempo avec Florent Garcia, Pandrez, MV et Chronomusique et voilà. où et moi aussi accessoirement mais bon moi je suis pas la star hein. Et donc on se retrouve tous ensemble et on balance tout ce qu'on aime en contenant musique sur internet.
Oh là là.
Donc que de la reco ouais. en français, en anglais et okay. pendant quasiment 2 heures t'as de la reco.
Et vous écoutez des trucs à des moments où vous parlez de pendant 2 heures de trucs très frustrants.
Oui, non, c'est très frustrant.
Ça, c'est très frustrant.
Ultra frustrant.
Mais ça donne plein. Il y a des images chez François. François, notre monteur, qui est hors cadre, là, on lui fait un coucou. Ouais. Il avait mis des illustrations. Alors, pas avec le son, mais il y a des illustrations visuelles.
Voilà. Mmh. Yes.
C'est voilà. l'essentiel.
Bah, écoute, moi, je parlerai de tableau, je ferai écouter le son ouais. sur le tableau aussi.
Non, mais il n'y avait pas que des groupes.
Bref. De toute façon, de manière générale, je m'adresse à la caméra, là, il faut écouter DLT.
Oui.
Il faut, c'est important. Je dis ça ouais. à la fin du podcast, je sais pas si
je me suis. Je viens de m'abonner à la chaîne d'Adam Nili.
Voilà. Ah, Adam Nili, c'est très chaud. Andrew Hyang.
Andrew Hyang, j'aime bien ça.
Ouais, qui est très chaud.
Tu peux t'abonner à DLT dans la foulée aussi.
Il y a Orchestration Online qui, là, c'est plus pour de la musique orchestrale et tout ça. Ce genre de truc. Enfin, si je veux vraiment des tutos, en général, je vais taper how to et puis après, je vais mettre ce que je veux. Et puis, je vais trouver des trucs et découvrir des trucs et tout ça, tu vois. Rick Beato, il est très cool aussi, mais on en avait déjà
un parlé. Un peu boomer, mais oui.
Ouais, voilà. Mmh. Sinon, en vrai, moi, je vais beaucoup sur audios.info où il y a plein de... Ou maintenant, c'est point .download, ça change tout le temps parce qu'ils font aussi des cracks et tout ça, tu vois. Mais t'as beaucoup de... Il y a tout un arc forum. Et là-dedans, t'as énormément de trucs. Et puis surtout, là, tu trouves des PDF de bouquins que tu pourrais pas trouver.
Il vient de vous donner une astuce, là, pas ultra légale, mais c'est un site très intéressant.
Ah ouais, ouais. Non, mais plugins. Surtout, vraiment, moi, j'ai lu des trucs, j'ai lu des PDF de bouquins que j'aurais pas pu avoir, quoi, tu vois.
T'as lu PNL ?
J'ai lu PNL en entier. Et j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé.
Okay.
Mais il faut dire que je ne suis pas un gros nounours.
Mais la fin était décevante. Mais la fin un peu en dessous, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, et on rappelle quand même que, évidemment, vous pouvez télécharger des choses comme ça pour essayer, mais ensuite vous l'achetez, hein, évidemment.
Chaque jour.
Chaque jour, tout le temps.
Sauf si vous êtes pauvre. À ce moment-là, volez.
Voilà.
Crocheter.
C'est bon, on peut terminer ce podcast. Là, je crois que c'est incroyable.
Voilà.
On peut faire quand même un petit SO à Thoman, qui nous aide à faire cette émission. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir.
Augmenter Salman.
De quoi ?
Augmenter Salman.
Oui, je veux bien.
Voilà.
Bon, ils peuvent augmenter aussi. On peut ensemble. Donc, on est payé pareil. Donc,
oui.
On peut être ensemble. Allez. Et PV, merci évidemment.
Bah, plaisir, merci à vous. Hein.
Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail pour ceux qui souhaiteraient suivre ça sur les réseaux ou...
Oui, partout. Je pense que l'outil Google sera votre ami. Hein. PV, ouais. Plus loin, NOVA.
Et on peut peut-être dire les franglaises à Bobino très bientôt, oui. Puis après...
C'est vrai ça, ouais. À Bobino et en tournée. À Bobino jusqu'à fin janvier, en tournée un petit peu en octobre et puis surtout de février à juin. Tournée dans une bonne partie de la France et à Bruxelles.
Et ça vaut le coup parce que les franglaises, ils ont juste eu un Molière en 2015 par exemple. Donc c'est un spectacle assez réputé qui tourne depuis longtemps, donc bravo.
C'est vrai, les gens font des malaises tellement on est bon. Non, ça, ils font des malaises parce qu'il fait chaud... Non, venez nous voir sur scène. Il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant. Sortez voir des spectacles, des concerts. En fait, on a un peu pris l'habitude d'être dans nos pantoufles là pendant un an et demi.
Ouais.
Mais wow, je suis ressorti là il n'y a pas longtemps. C'est tellement bien. Il faut y retourner. Hein. Au début, j'étais là, genre un peu, elle est froide et tout. Un concert de rock offert ailleurs, t'inquiète, ça m'a réchauffé. C'était bien. Allez-y, sortez.
Je vais sortir chaque jour.
Et puis la BD Splash qui est sortie il y a peu de temps. Et puis,
en librairie.
Et puis toutes tes activités, évidemment, sur les internets. Google est votre ami, en effet. Michel, un truc à mettre en avant en ce moment ?
Zizi Kaka Mixtape 2021, on arrive. Hein. On arrive.
On n'a jamais été aussi
proche. Soyez patient, on n'a jamais été aussi proche.
C'est pour bientôt.
C'est pour bientôt.
Et puis, moi, c'est mon classique. Abonnez-vous à Monte le Son, la chaîne sur laquelle est la version vidéo de ce podcast. N'hésitez pas aussi à checker le podcast en version audio. Si vous n'avez pas le temps de rester sur YouTube pendant 2 heures, par exemple, vous le mettez sur les trajets, etc. Pour DLT, c'est parfait.
Voilà.
Et on compte sur vous. Lâchez des commentaires, y compris sur les plateformes de podcast. Ça permet, en fait, de faire remonter le truc.
Un comme chez nous, un comme chez toi.
Exactement. Et puis surtout.
Je rends, comme on disait à l'époque.
Oui, exact.
Et puis, ça permet vraiment à plus de gens de découvrir cette émission et surtout qu'elle perdure. Donc on compte sur vous, c'est important, voilà, pour que l'émission perdure.
Je voudrais qu'elle perdure, sinon ce serait hyper dur.
Voilà, c'est vrai.
J'ai lâché un petit slam pour finir cette émission. Merci à vous les gars.
Merci encore.
À bientôt. Michel, c'était cool de faire cette émission en vrai.
Ouais, très chaud.
On se refait ça très vite.
Oui. Bye bye.
Ciao.
Bye.